Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 27, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Victoria, je ne changerai pas cette lampe, arrêtez de me bassiner.
Oh, c'est pas possible ça. Il me fait le coup du commissariat, je vais le dire à tout le monde.
On a une petite lampe de bureau sur la table.
Elle est toute cassée.
Et Victoria, vu que je la baisse, mais si je la baisse, je ne vois plus rien, déjà que j'ai cassé mes lunettes. Alors, je vous dis tout, chers auditeurs, est-ce que j'ai dit bon, oui, j'ai dit bonsoir. J'ai cassé mes lunettes, je me suis assis dessus, les pauvres.
C'est ça.
Crac.
Elles ont pas aimé.
Elles ont été réparées par, pour même que je le dise, un polytechnicien, un ingénieur agronome et un docteur en microbiologie des sols. Elle va me dire que c'est bon.
Ouais, ça marche.
Et puis, le plus intéressant, c'est quand même celui qui était responsable de la qualité environnement du grand vignoble champenois. Il s'est occupé des vers spécialement. Voilà, je dois dire, ça c'est donc les invités que je reçois maintenant, mais avant je dois signaler l'absence involontaire de sa part de notre ami François-Marie Algou qui devait nous venir nous parler de Morage, de son œuvre, etc. Et j'ai pensé que c'était un sujet qui méritait beaucoup plus de temps que j'en pouvais lui en donner ce soir. Et donc j'ai demandé à François-Marie Algou s'il voulait avoir la gentillesse d'accepter un report de l'émission, ce qu'il a fait avec cette élégance et cette grandeur d'âme qu'on lui connaît.
Morage auquel il vient de consacrer de volume, ne le cachons pas davantage.
Ne le cachons pas plus longtemps. Et donc je le remercie et je signale qu'il sera là mercredi en 15, sauf erreur de ma part, j'espère que je ne me trompe pas encore. Et alors là, on consacrera un peu plus de temps, enfin, on consacrera un bon moment à parler de Morras, de son œuvre et de son importance aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques actualités. Je viens de recevoir, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait bien plaisir, le catalogue du comptoir général financier. Pourtant, mes rapports avec le comptoir général financier sont assez distendus par les temps qui courent. Qui présente au moins 3000 médailles, monnaies et médailles, monnaies antiques, royales, féodales, modernes et étrangères, Et alors, je l'ai feuilleté avant de venir à ce micro, et je me suis aperçu que, avec un catalogue, on pouvait faire un véritable livre d'histoire, presque un livre d'aventure, avec des photos de médailles qui sont extraordinaires. C'est vraiment le patrimoine, une partie magnifique du patrimoine européen. Et il vaut 20 euros ce catalogue. Il est distribué dans la perspective de la vente sur offre qui aura lieu le 17 novembre 2005 au comptoir général financier, donc comme je l'ai dit, de messieurs et mesdames Clairand, Desrousseaux, Gouet, Prieur et Schmitt. La vente est certainement, sera certainement passionnante, mais le catalogue à lui seul vaut qu'on l'achète, parce que c'est un document.
Serge, je vois quelqu'un saliver pas loin de vous. Je crois qu'il est collectionneur de catalogues.
Vous me permettez de faire une assise. Vous avez parfaitement raison de dire qu'un catalogue, parfois, c'est un livre d'aventure, ça résume des tas de choses, c'est un livre d'histoire. Moi, je me suis amusé depuis la mort du duc et de la duchesse de Windsor, et quand il y a eu la vente Windsor, d'acheter tous les catalogues des grandes ventes. Alors, Windsor, Calas, Bestegui, la vente à Nœuvre, il n'y a pas de mort, mais ils vendent. Et pour, parfois, 200 ou 300 francs, on a 3 ou 4 volumes somptueux, avec des photos magnifiques, l'histoire des objets, ça retrace l'histoire de tout. Et moi, j'engage les gens à chaque fois qu'ils peuvent d'acheter chez Sotheby's ou ailleurs les catalogues de vente, et ça devient des vrais documents d'histoire. Et vous avez parfaitement raison.
Mais là, c'est
formidable.
Là, c'est frappant. Par exemple, il y a
tout. Vous venez d'entendre, Serge, le divin marquis d'Olmeta.
Le marquis Chérias d'Olmeta. Il faut dire son nom.
Oui, il faut le présenter.
Et puis, je suis plus recherché par toutes les polices, vous pouvez y aller.
Ça y est, il a eu son non-lieu. Vous êtes comme Longuet, vous êtes lui, c'est le roi de la relaxe, vous êtes le roi du non-lieu. Ouais. Il y a un chapitre entier qui est consacré au trésor de Mirepoix, avec des médailles et des monnaies de Louis IX. Il y a donc une notice assez longue et très complète sur Louis IX. Autrement dit,
Saint-Louis,
bravo,
avec deux capitales.
C'est très bien.
C'est le seul saint qui est une capitale à saint, parce qu'il est à la fois roi et Louis. Saint et roi, pardon.
C'est le correcteur non syndiqué qui vient de nous donner une leçon.
Philippe le Hardi, Philippe IV le Bel, mon préféré parce qu'il me ressemble un peu.
Un profil de médaille, oui.
Philippe VI de Valois, etc. Superbe catalogue, vous pouvez vous le procurer, je pense, en écrivant au comptoir général financier, 36 rue Vivienne, 7502 Paris, voilà.
Et notre divin marquis peut se le procurer auprès de vous, il en fait la collection.
Non, je le garde, celui-là, mon œil. Et l'adresse, c'est w3fois.cgb, comptoir général, mais pas F, parce que c'est B, c'est financier, c'est pas financier, B. CGB, voilà.
Cela dit, c'est une boutique, rue Vivienne, alors ils doivent le vendre à la boutique. Si on passe devant, on peut l'acheter.
.fr.
C'est à côté de la bourse. Oui.
Voilà, je vous parle de ça parce que j'étais surpris par la qualité et l'intérêt de ça. Pour moi, les catalogues, c'était des choses ennuyeuses, bien que le marquis m'ait depuis longtemps édifié là-dessus. Alors, je disais que le marquis était le roi du non-lieu, mais il n'est pas le seul dans son cas. La 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris sur l'affaire des marchés publics d'Île-de-France a, comment dirais-je, prononcé son jugement. Et moi, je suis très très content parce que les peines sont de pure forme, et ça prouve bien quand même que...
Sauf pour Madame Casetta, je crois.
Non, mais c'est là le sursis. Donc, on a la chance en France d'avoir des hommes politiques qui sont parfaitement honnêtes, et la justice le reconnaît, puisqu'elle ne les envoie pas en prison. Si vous volez 50 balles à la petite vieille qui passe dans la rue en soustrayant son portefeuille, son porte-monnaie...
C'est pas moi, je recommencerai pas.
Eh bien, vous allez directement en taule sans passer par la case départ. Tandis que là, vous pouvez voler des milliards aux contribuables. On vous dit le tribunal prendra toutefois en considération que Michel Roussin n'a pu agir d'initiative, mais qu'il a assumé son rôle sans état d'âme. Michel Giraud, il apparaît que Michel Giraud était informé de la mise en place d'une commission dont le but était de détourner les critères définis par les codes des marchés publics.
Il se trouve que Michel Giraud était ce président de la région Île-de-France qui a écrit à Disney pour supplier qu'on fasse un double affichage à Disneyland avec un peu de français par-ci par-là.
Ah, c'est gentil, ça c'est bien. Monsieur Guidrut est dans l'incapacité de justifier d'un acte positif expliquant son salaire. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien, je touchais des sous. Et ça vous occupait beaucoup? Bah oui, quand même, une fois par mois, il fallait passer à la caisse. C'était... Voilà, donc tous ces gens-là ont pris 2 mois avec sursis, avec les félicitations du jury et tout. Maintenant, si vous voulez voler autant de fric à autant de monde, sans être plus gravement puni, laissez tomber l'attaque de banque. Hein. C'est pas le bon truc. Monsieur Sarkozy, il a dit que il était partisan du vote des étrangers. Et alors, Monsieur Villepin a répondu que ça servait à rien, puisque n'importe qui peut devenir français, donc c'est pas la peine de donner le droit de vote aux étrangers. Cette nationalité, tout étranger qui habite sur notre territoire depuis plus de 5 ans peut librement la demander. C'est un choix important qui marque la volonté d'appartenir à la communauté nationale.
Alors,
il y a un exemple de ça. Il y a quelques jours, il y a un maire d'une commune du Nord qui a organisé une réception, parce qu'il y avait 15 habitants de cette commune qui venaient d'être naturalisés. Alors il a invité les 15 naturalisés, il y en a un qui est venu, les autres sont même pas dérangés. Il avait préparé un petit raout. Comme dirait Michel de Poncin, c'est toujours aux frais des contribuables. On boit du champagne, on mange des petits fours, c'est le contribuable qui paye. Donc il y avait plein de monde. Il y a un naturalisé qui est arrivé, qui était un Congolais. Alors on lui a dit, alors vous êtes content d'avoir la carte d'identité française? Il a dit, je m'en fous absolument, moi je suis Congolais. J'ai demandé la naturalisation parce que ça simplifie l'existence, c'est tout. Voilà, donc comme dit Monsieur Villepin, cette nationalité, c'est un choix important qui marque la volonté d'appartenir à la communauté nationale.
C'est pas un choix, c'est automatique.
Ben oui.
À 18 ans, boum.
Comme dirait Astérix, c'est automatique, ça.
À 18 ans, la vache née dans l'écurie devient un cheval.
Voilà. À propos d'Astérix, il faut quand même que je vous dise, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas acheté, continuez. Le dernier, le 33e.
Si vous voulez savoir...
Ne dites pas 33.
C'est dans le Libre Journal qui vient de paraître.
Ne dites pas 33. C'est pourtant... Ah, Dieu sait que j'ai aimé Astérix. Que j'ai un infini respect pour Goscinny et beaucoup d'amitié pour Uderzo, mais la morale, la simple vérité oblige à dire que cet album est une catastrophe. Mais non seulement j'ai pas ri une seule fois, mais j'ai même beaucoup de peine à arriver au bout.
C'est au point que beaucoup de gens disent que le hors-série du Figaro sur Astérix est bien meilleur. Ouais. Il récapitule les personnages, il récapitule tous les albums parus, avec, je crois, plus de 200 illustrations de très haute qualité, que ça vaut mieux que le nouvel album.
C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot, une catastrophe. Alors, je vous livre l'histoire en 2 mots. Il y a un nounours, genre Télétubbies. Vous connaissez les Télétubbies? C'est de votre génération, ces messieurs, non?
Ouais.
Voilà, ils connaissent.
Ils font la tête. Je sais pas pourquoi.
Les Télétubbies, donc c'est un personnage des Télétubbies qui arrive au village d'Astérix et qui explique qu'il fait la guerre c'est pas au manga, mais un genre de truc comme ça. Et alors on voit arriver là, non mais c'est hallucinant, je peux même pas le raconter. On voit arriver une espèce de monstre qui ressemble à Goldorak, qui est aussi de votre génération, je sais pas.
J'ai lu aussi, c'est une catastrophe.
Hein, c'est effrayant cet album.
Mais alors. Dormir avec.
Ah non. Et alors le Télétubbies se bat avec Goldorak avec l'aide d'Astérix et Obélix. C'est même pas un naufrage.
C'est terrible parce qu'il y en a 8 millions d'exemplaires imprimés dans le monde, 3 millions et demi en France et tout ça.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir caler comme bureau?
Voilà, caler les bureaux.
Et je suis désolé parce que vraiment j'aime beaucoup Uderzo, mais ça c'est pas possible. On peut pas laisser les gens se faire avoir par ça.
Pendant que vous reprenez Alain, Serge, est-ce que je peux renvoyer au Libre Journal en une minute, puisque donc si on veut des détails sur cette affaire Astérix. Donc il y en a toute une page plus argumentée, plus précise dans le Libre Journal. On a consacré également 2 pleines pages de photos très belles, très parlantes à la Marche pour la Vie et à l'opposition de quelques dizaines de nervis qu'elle a suscité. Donc il y a quasiment que des photos avec une toute petite légende et elles sont assez belles, ces photos assez parlantes. La marche pour la vie du 15 octobre, je pense que
il y a les tronches des mecs des francs-tireurs partisans que vous pouvez photographier. Enfin, voilà.
Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient beaux, ils étaient décoratifs, et il fallait des policiers en tenue anti-émeute pour protéger les petites filles, les vieux messieurs comme il faut.
Donc il y a leurs photos dans le journal. Si vous voulez aller les féliciter à l'occasion d'une rencontre dans la rue, vous pouvez toujours les retapisser, comme on dit chez les.
Voilà, Michel de Poncin. Michel de Poncin revient sur la catastrophe permanente de la sécurité sociale. La mairie de Paris, à la surprise générale, recommande un pornographe gay J'ai AY aux enfants. Et nous poursuivons...
Il y en a marre, il pourra un peu s'occuper des vieillards aussi.
Oui. Et nous poursuivons notre concurrence déloyale au pauvre Fort Carré, qu'on a été réduit à annoncer le remplacement de Karl Lang au Front National, au secrétariat général, par Monsieur Alliot le 18, alors que ça s'était produit le 11, dans un article assez insipide et assez vide. Il semble que les informations privilégiées dont disposait Libération sur la vie interne du Front National soient en chute libre. Alors, c'en est au point que maintenant, c'est le Parisien qui marche aussi sur ses plates-bandes à Fort Carré et Libération, en racontant que Marine Le Pen et Madame Tirebois s'appellent Fifi et Mémère, là, le avant-hier, donc Fort Carré est vraiment... Et alors, nous, on est donc concurrence déloyale, on continue, on explique que en trois pages très documentées, très informées, que contre duplicateur, c'est comme ça que certains appellent, c'est comme ça que Monsieur Le Pen appelle Philippe de Villiers, on va mettre en œuvre la stratégie Martinez à tort que vous avez illustrée la semaine dernière, Serge, en citant donc les déclarations un tiers mondaine, un tiers mondiste de Monsieur Martinez. Voilà, c'est le numéro 361 du Libre Journal imprimé dont je viens de parler. Alors comme toujours, si on ne me croit pas sur parole, on demande donc en spécimen ce numéro contre 5 euros ou un carnet de timbres. Et si on veut s'abonner pour un an, on envoie 100 euros à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75-010 Paris. Un dernier mot, il y a un dictionnaire, il y a une sélection donc des éditoriaux de Serge de Bekech qui vient de paraître en livre sous le titre Le dictionnaire de la colère. Alors là, c'est à l'ordre, je crois, de Serge de Bekech lui-même, qu'on envoie 30 euros port compris pour ce dictionnaire de la colère. À la même adresse, 4 places Franchly, 75-010 Paris.
Merci, mon cher Patrick, pour cette publicité gracieuse autant que gratuite.
À votre service, Serge, mon cher Voigt.
Alors, Nicolas Sarkozy, vous avez vu qu'il a annoncé qu'il était donc pour, je l'ai dit, le vote des étrangers. Et alors, il l'a remercié, de la façon qui convient, en lui balançant des bouteilles vides, il paraît.
On peut comprendre, parce que depuis les dernières élections, sauf le référendum, les Français sont plutôt étrangers au vote.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison, exactement. Les Français étant plutôt étrangers au vote, il n'y a pas de raison que les étrangers ne votent pas. Et Nicolas Sarkozy, donc, a été reçu à coups de pierre, à coups d'œuf, à coups de bouteilles.
Comme tout le monde.
Dans la dalle d'Argenteuil, donc comme tout le monde, comme un quidam. Et le PS, alors écoutez, ça c'est formidable, le PS juge anormal que le ministre de l'Intérieur soit agressé de cette façon. C'est anormal.
Moi je trouve ça normal parce que Faits et Documents vient de montrer qu'une famille polygame ne touchait que 53 000 francs par mois,
ouais.
À rien foutre. Alors il y a de quoi se révolter,
ouais.
Non ?
Ouais. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Continue à acheter des bouteilles sur le ministre de l'Intérieur.
J'ai deux jolis messages sur le sujet.
Allez-y.
Monsieur Sarkozy veut donner la nationalité française à tous les immigrés. Résultat, les Français tous et prennent le premier poulet de France en grippe.
Ah oui, c'est bien. D'autant que c'est les Français probablement qui lui ont acheté les bouteilles.
Oui, mais moi j'ai remarqué que Sarkozy vieillit, prend de la bouteille.
Et deuxième, mauvais présage pour Nicolas. Désormais, les éleveurs ne seront plus autorisés à sortir du volailler. Nicolas Sarkozy, le grand chef du poulet, est donc condamné à rester à l'intérieur.
Ah, très joli aussi ça. Nos lecteurs ont du talent. Et nos auditeurs aussi.
C'est à force de nous lire et de nous écouter.
Mais modeste avec ça.
Alors, vous savez qu'il y a eu... Enfin, je vous le signale, parce qu'il faut quand même savoir dans quel monde on vit. À Dole, il y a eu une grande manifestation, plusieurs centaines de personnes.
Dole dans le Jura, n'est-ce pas ?
Oui, je sais pas. Ou Dole de Bretagne, peut-être, non ? Lequel ?
À Dole, bon, ben,
restons-en
là.
À Dole, Hitler, non ?
Et alors... À Dole, donc, il y a eu une grande réunion de plus de 300 personnes qui se sont rendues sur une stèle qui avait été gravée à la mémoire de Stella Stevan.
Qui c'est ça ?
Eh bien, vous faites bien de poser la question, parce que moi je trouve tout à fait normal qu'elle ait une stèle, étant donné que c'est une jeune femme qui est morte à la suite d'une overdose, et qu'elle était nigériane, sans papier et prostituée.
Ah, bah, ouais.
Donc, ça justifie parfaitement.
Ils vont bientôt demander la canonisation aussi.
Une stèle, c'est un peu mesquin, je trouve qu'un mausolée de marbre et d'or.
Voilà, c'est. Donc, si
il serait acheté de la poudre aux yeux.
Si vous voulez avoir une stèle ou un mausolée de marbre d'or, vous savez ce qu'il vous reste à faire, cher Patrick.
Bon, ouais.
Alors, je vous signale également, et ça c'est quand même intéressant de savoir, que je pense que dans quelques temps, on nous demandera, si vous allez voir ce film, vous serez un des rares, gardez bien le ticket, parce que vous aurez besoin de prouver que vous avez vu le film, pour échapper aux accusations d'antisémitisme. Parce que ça s'appelle La Maison de Nina.
Oh.
Et alors, Monsieur Millière.
Ne confondons pas.
Non, c'est Millière, ça.
Millière,
dit,
alors.
Je viens de voir un très beau film intitulé La Maison de Nina, réalisé par Richard Dumbo. Mais j'ai passé en même temps une soirée très triste. Nous étions 5 spectateurs dans la salle. Et alors, le lendemain, je recevais un courriel diffusé très largement sur le net par le producteur du film, incitant à une mobilisation. C'est pas... Producteur, il a tout à fait intérêt à mobiliser, c'est vrai. Sans laquelle ce long-métrage allait disparaître rapidement et totalement des écrans. J'ai bien peur, hélas, que les dés soient déjà jetés et il n'y ait plus rien à faire. L'important est de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi? Ben, c'est parce que la France est antisémite. Voilà. Donc, si vous n'allez pas voir ce film, c'est que vous refusez de voir la douleur des survivants de la Shoah. C'est que vous voulez oublier cette souffrance, la réduire à quelques commémorations officielles, et patin et couffin. Donc, prière d'aller voir La Maison de Nina, et que ça saute.
Et c'est
et
pas
gardez
tout.
Gardez votre ticket.
Si vous n'achetez pas le livre de Serge de Beckett, vous êtes des nazis, et vous serez traité comme tel, donc envoyé 30 euros. Je reçois je suis terrifié, Serge, parce que je reçois un fax de Daniel de Beckett, qui dit 5 euros en timbre. Et rien d'autre, elle a besoin de timbre apparemment.
Oui.
Donc 5 euros en timbre pour se procurer le Libre Journal 361.
Non, c'est parce que...
4 place France 6, 75 euros disparu.
Non, la raison est beaucoup plus astucieuse que ça. C'est que 5 euros en chèque, c'est 5 euros.
D'accord.
5 euros en timbre, c'est 5,30 euros, parce que c'est des timbres à 53 centimes d'euros. En fait.
Oui. Et puis elle en a assez de manipuler des dizaines de chèques de 5 euros.
C'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, sauf que c'est des chèques quand même. Alors,
non.
Oui, je veux bien rappeler qu'on peut se procurer le livre du Marquis, mais
oui, chez moi.
Mais voilà, chez lui. Écrivez au Marquis, vous aurez son livre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Sinon, quand même, encore un petit truc. Attendez, il y avait une histoire qui m'avait frappé. Non, c'est tout. C'est que oui, voilà. Tout le monde est contre l'idée de Sarkozy. Je me demande bien pourquoi. Je me demande c'est de faire voter les étrangers. Tous les gens de l'UMP disent qu'ils sont à peu près contre. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne sera pas dans la perspective des élections. Cela dit, il faut dire qu'il a une stratégie qui est à peu près aussi mystérieuse que celle de Martinez.
Mais rappelez-vous, Mitterrand a mis ça en avant avant chaque élection pour diviser la droite. Alors, est-ce que Sarkozy veut diviser la droite aussi? C'est curieux.
Bon, on fout d'ailleurs, je ne voterai pas.
Oui, exact.
Voilà. Mais messieurs, j'espère que nous ne nous avons pas choqués par nos propos iconoclastes. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. On va parler d'un sujet dont on avait déjà parlé avec Henri Dumérac deux fois, je crois. Vous êtes venu deux fois ici.
Oui, deux fois.
Parce que moi, j'ai trouvé ça passionnant. Il s'agit d'un produit qui s'appelle la Mégamine et qui est réalisé par... Tribomécanique, c'est ça?
Voilà, par le procédé de broyage qui a été fait qui a fait l'objet d'un brevet mondial déposé par un chercheur croate qui est parvenu à concevoir une machine où on broie en mettant les particules en collision les unes contre les autres. Alors c'est parti de recherches qui datent depuis le début du siècle et qui montre qu'une particule minérale est plus active à partir du moment où on augmente la surface de contact entre la matière minérale et le milieu biologique qui l'absorbe. Et du coup, pour augmenter cette surface de contact, un des moyens est de broyer par collision, c'est-à-dire de créer une friction très intense entre particules pour avoir une surface complètement déchiquetée, découpée, et avoir une activité maximale à l'intérieur de l'organisme. Alors en fait, ces recherches ont commencé au départ sur un plan purement mécanique, justement de pour obtenir des matériaux innovants. Et le chercheur qui l'a expérimenté a décidé d'améliorer les techniques qui existaient pour absorber les odeurs dans les élevages de porcs. Donc au départ, ça avait absolument rien à voir avec la médecine ou le domaine du supplément nutritionnel du corps humain. Et du coup, des essais ont été positionnés dans un certain nombre d'élevages en Croatie, en pensant que grâce à ce procédé, l'activité de petites particules de roches absorbantes d'origine volcanique allait permettre d'absorber l'ammoniac dans les élevages de porcs et de créer une atmosphère de qui sentait la rose, on pourrait dire, et ça a été un échec absolu, parce que les odeurs d'élevage sont restées à peu près ce qu'elles étaient, peut-être avec un niveau d'ammoniac un petit peu moins fort, mais par contre les éleveurs ont tous rappelé, les uns après les autres, en disant, mais écoutez, c'est surprenant, je constate une baisse de tous les problèmes de santé qu'on a d'habitude, et dans les élevages intensifs en Croatie, les problèmes sanitaires sont importants, il y a des problèmes d'infarctus, de pneumonie, enfin des forts problèmes sanitaires. Et devant l'augmentation, l'amélioration de l'état de santé des animaux, ça a du coup donné l'idée à l'équipe de recherche que le procédé pouvait créer un produit pharmaceutique d'un nouveau genre.
C'est ça. Et alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que l'avantage de cette pulvérisation tribomécanique, c'est que à ce degré de miniaturisation des particules, on finit par plus faire la différence quand on utilise un système de broyage normal entre la particule du produit qu'on réduit en poudre et les particules qui s'arrachent. Enfin, que le choc arrache des instruments de broyage.
Voilà.
Donc on absorbe du métal.
Voilà, exactement.
Et le génie croate dont vous nous parlez, il a eu l'idée de supprimer cette question en provoquant la pulvérisation par le choc des particules de produits entre elles, par un circuit d'air pulsé.
Voilà, exactement. Les particules sont entraînées par flux d'air, et en réalité, comme toutes les découvertes importantes, c'est basé sur une idée très simple, qui est tout simplement celle du coussin d'air, qui permet de faire circuler à haute vitesse les pales de la machine, tout en ménageant une compression et en dirigeant les particules de façon à ce que 99,99% des chocs aient lieu entre particules minérales. Comme si on faisait de la taille de pierre à haute vitesse et à l'échelle microscopique.
Et alors donc, ayant trouvé ce système, le produit de base, qui est une poudre minérale...
C'est une poudre minérale.
Alors,
c'est...
peut être considéré comme le vecteur d'autres produits, parce que l'intérêt qu'elle présente, si j'ai bien compris, cette poudre, c'est que étant donné son caractère infinitésimale, elle pénètre dans la cellule.
Notamment dans les villosités du système digestif. Parce que un congrès de médecins à qui on faisait la présentation du concept de l'amégamine nous a appris une chose très importante. C'était la personne qui parlait juste avant qui a dit, en fin de compte, 80% de l'énergie de l'organisme est consacrée dans tous les métabolismes et tous les processus de détoxination du système digestif. Donc le processus digestif lui-même et le processus d'élimination et d'évacuation des différentes toxines qui naissent de la digestion ou qui sont apportées par les aliments. Alors le haut du système digestif est un endroit crucial dans l'organisme. C'est là qu'il y a la plus grande densité de cellules du système immunitaire pour éviter que les problèmes ne rentrent en même temps que l'alimentation. Et du coup, les particules de roches volcaniques qu'on va microniser par cette technologie sont au départ des particules absorbantes, donc ils vont pouvoir absorber ce qui acidifie le système digestif ou un certain nombre de toxines qui sont présentes dans la digestion, mais du coup vont entraîner une réaction qui, elle, est tout à fait originale, et c'est ça qui a été à l'origine des recherches médicales sur l'amégamine, c'est que ça crée la réponse d'un certain nombre de récepteurs qui sont placés dans les villosités du système intestinal et qui, elles-mêmes, déclenchent la mise en œuvre des dépenses immunitaires. C'est-à-dire que on va stimuler une réponse immunitaire de tout l'organisme à partir d'une action qui reste localisée dans le système digestif.
Alors, on constate que si vous variez le produit qui accompagne le produit de base, l'amégamine, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est des chariots minuscules qui apportent dans l'organisme des charges et qui vident les charges dans l'organisme et repartent avec des charges de toxines.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. C'est en fait des particules qui font de l'échange ionique et qui échangent des nutriments type calcium, magnésium, potassium contre des métaux lourds, des radicaux libres et des toxines qui vont être capturées par les particules ayant cette surface fragmentée.
À partir de là, vous avez cherché des produits qui étaient susceptibles d'être actifs.
Voilà.
S'ils étaient importés dans l'organisme par ces minuscules petits chariots.
Exactement. Et là aussi, ça a été une surprise qui s'est faite au fur et à mesure des expérimentations, parce que au départ, l'idée était simplement de mélanger les particules de roches volcaniques en elle-même active à des composés connus au niveau de la nutrition du type feuilles d'ortie, pollen, différentes variétés d'antioxydants pour augmenter l'activité de l'ensemble. Et alors pour pousser la perfection du produit, on s'est mis à activer ensemble les composés végétaux et les particules minérales. Du coup, à faire s'entrechoquer à haute vitesse les extraits, par exemple les feuilles d'ortie séchées, avec tout un système de refroidissement pour que les particules végétales puissent être gelées et collisionner à haute vitesse les particules minérales. À partir de ce moment-là, on s'est aperçu d'une augmentation de l'activité de l'ensemble qui passionnante, parce qu'en fait, la somme de l'activité de la matière obtenue par le mélange minéral-végétal est supérieure à la somme d'une part de l'activité du minéral et du végétal. Et ça a été mesuré dans un premier temps en associant la zéolite à des feuilles d'ortie. Ça a donné un complément alimentaire qui s'appelle la mégamine forte et qui aujourd'hui fait l'objet est testé spécialement à Berlin. Il y a un groupe de médecins qui a fondé une académie de médecine interdisciplinaire pour justement évaluer l'apport de suppléments nutritionnels ou de compléments alimentaires dans les stratégies de soins d'un certain nombre de pathologies. Et récemment, il y a une étude clinique qui a été mise en place sur le diabète et qui a montré que les personnes atteintes de diabète pouvaient, grâce à l'activité antioxydante de la mégamine forte, augmenter fortement la qualité de vie à travers une amélioration de tous les indicateurs cliniques qui traduisent, on pourrait dire, l'état général d'une personne atteinte de diabète. Alors, on n'agit pas sur la source.
C'est pas un traitement du diabète.
Non, on n'agit pas sur la cause du diabète, pas du tout. Le diabète est créé par une déficience d'insuline qui, dans le diabète de type 1, celui qui apparaît en général dans le jeune âge, est lié à une maladie de le système immunitaire attaque les cellules qui créent l'insuline. Dans le diabète de type 2, celui qui est d'origine nutritionnelle, qui se développe notamment suite aujourd'hui, c'est reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. A de l'impact de l'alimentation en sucre doublé de facteurs génétiques de terrain. Et dans ce diabète, les cellules deviennent insensibles au message de l'insuline. Et dans les deux cas, le résultat est le même, c'est-à-dire que le taux de sucre augmente dans le sang et l'augmentation du taux de sucre conduit à un stress oxydant intense, c'est-à-dire à une surproduction de radicaux libres. Et les radicaux libres sont aujourd'hui au cœur de toutes les recherches médicales, sont des particules à un électron manquant qui captent l'électron qui leur manque en le prenant dans une membrane cellulaire. Alors on pourrait dire que en introduisant un système antioxydant d'un nouveau genre, on va empêcher le stress oxydant lié au diabète d'avoir un effet nocif sur l'organisme et du coup et on va pouvoir régulariser ainsi directement la vie et l'état de santé des personnes atteintes de diabète.
Alors la dernière fois que vous étiez venu, vous nous aviez fait miroiter un projet qui me paraissait effectivement tout à fait passionnant, c'était le projet d'utiliser la mégamine pour le transport de la vitamine C extraite d'une tomate, c'est ça ?
Voilà, du lycopène de tomate.
Lycopène de tomate.
Alors là, c'était le projet de pousser encore plus loin l'activité antioxydante de la mégamine en associant la zéolite à une famille d'antioxydants. En se basant sur l'ensemble des recherches menées depuis maintenant une vingtaine d'années, qui montre que la surproduction de radicaux libres est le principal facteur accélérateur du vieillissement. Alors, suite à cette à toutes ces recherches qui ont eu lieu sur les antioxydants. Il a été prouvé que c'est pas seulement un type d'antioxydant, mais une synergie d'antioxydants qui permet de réduire efficacement le niveau de radicaux libres dans le corps. Parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a ceux qui captent directement les radicaux libres, et il y a ceux qui engendrent la création d'enzymes qui, elles, vont circuler dans l'organisme entier et participer à la neutralisation des radicaux libres. Alors à ce moment-là, on a recherché donc dans substances ayant une forte activité antioxydante, le lycopène de tomate, qui est un pigment, le pigment qui donne la couleur rouge à la tomate, au pamplemousse rose, à un certain
nombre. Étonnamment, les rouges ont toujours été contre l'oxydant.
J'allais dire, qu'est-ce qu'il a contre l'oxydant, ce monsieur? C'est à nous qui vient chanter ça, je comprends plus.
L'oxydant ne vaincra pas, on est obligé de le reconnaître pour une fois. À part cette sottise, on vous repose la parole, monsieur le politicien.
Vous écoutez Radio Courtoisie, vous en doutiez peut-être.
Non, mais ça, il doutait bien qu'il n'écoutait pas une émission sérieuse.
Le principe de ce nouveau produit qui s'appelle la lycopénomine, il est obtenu par collision à l'intérieur de la machine entre les particules de zéolite, du sélénium, du lycopène, de la poudre de tomate et de la vitamine C naturelle, c'est-à-dire une famille des antioxydants du plus haut niveau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous les antioxydants sont comparés aux deux qui sont fondateurs, qui sont la vitamine C, qui est l'antioxydant des liquides à la fois à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule, et puis la vitamine E, qui est l'antioxydant des membranes, qui lui intervient dans les phases grasses, donc sur les membranes cellulaires. Et pour vous donner un exemple, les particules de zéolite elles-mêmes n'ont aucun pouvoir antioxydant en phase aqueuse, c'est-à-dire à l'intérieur ou à l'extérieur de cellules, et ont 240 fois le pouvoir antioxydant de la vitamine E au niveau des membranes. Et le lycopène, qui lui est un des plus puissants antioxydants extraits des végétaux, a un pouvoir antioxydant qui est de 30 à 36 fois celui de la vitamine C et vitamine E. Et le pouvoir antioxydant qui a été mesuré pour la lycopénomie, c'est-à-dire pour l'ensemble, est porté à 1020 fois celui de la vitamine C.
À 1020 fois
et 1080 fois celui de la vitamine E. Ce qui est passionnant, parce que du coup, on pourrait dire, une activité antioxydante de la préparation qui est plus importante que celle de chacune des composants. Alors aujourd'hui, la façon dont ça marche, en vérité, elle n'est pas comprise dans le détail, c'est-à-dire qu'on peut mesurer avec des électrodes en émettant en laboratoire des radicaux libres l'intensité du pouvoir antioxydant d'une matière. Ça, c'est des mesures qui sont claires et nettes, complètement vérifiables. Par contre, le mode d'action, est-ce que la zéolite, justement, encapsule une partie des composés antioxydants du lycopène, de la vitamine C naturelle, et leur permet d'agir, une durée d'action ou un mode d'action qu'elles n'ont pas quand elles sont données seules à l'organisme? Est-ce qu'on est plutôt dans des processus de synergie entre les différents antioxydants et l'activité fortement antioxydante de la mégamine? Il y a toutes sortes de théories. Il y a même des théories qui feraient référence à un mode d'action d'homéopathie, on pourrait dire, en phase solide, où on multiplierait l'activité antioxydante au cours des collisions à cause de délocalisation d'électrons. Donc ça, tout sera exploré et connu dans les mois et les années.
Et tout ça, c'est fait. Vous avez créé une société qui s'appelle.
Alors la société
Tribotechnologie.
Voilà.
C'est ça ?
Alors Tribotechnologie, nous, on s'occupe de développer toutes les activités en agronomie et en nutrition animale de l'activation tribomécanique. Parce qu'effectivement, ça ne s'arrête pas en termes de développement possible aux seules applications médicales ou pharmaceutiques qui sont développées par la société Ecoidée. Tribotechnologie, on s'est intéressé à développer des produits, on pourrait dire, qui soient des alternatives naturelles parfaitement respectueuses à la fois de l'environnement et des utilisateurs, autant pour le traitement des plantes, on en avait parlé à notre premier entretien, que pour la nutrition animale.
Mais alors c'est assez extraordinaire, parce qu'on a l'impression que à partir d'une espèce d'accident, enfin, comme dans toutes les grandes découvertes, comme dans toutes les grandes innovations, au départ il y a un accident, une erreur, pas vraiment une erreur, mais un produit dont on attendait monts et merveilles, et puis c'est pas ça qui se produit. En l'occurrence, ce produit qui était censé absorber toutes les odeurs dans les élevages de porcs, d'ailleurs ça reste à découvrir, ça, entre nous.
Oui,
si vous passez de temps en temps en Bretagne, ce serait le moment de s'y mettre. Hein.
Pour la petite histoire, souvent on met des masquants, c'est-à-dire quand il y a des élevages de porcs qui sont encore dans les villes, parce que ça existe, on met des masquants, donc avec un goût de chewing-gum. Donc vous étonnez pas si vous baladez dans les villages français que ça sent un petit peu le malabar.
Ah oui, sympathique.
C'est ce qu'avait fait le...
Ça ne veut pas dire que le malabar est fait avec de la viande de cochon quand même.
Non, il n'y a pas de réciprocité dans le phénomène.
Ce que la RATP avait fait dans le métro à une époque.
Oui, et après ils ont fait une campagne pour
faire ça. Mais ils ont arrêté.
À la station Lila, ça sentait le Lila. Je vois que vous ne perdez pas le nord.
Revenons à nos activités tribales anti-Occident, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Je suis bien content de vous avoir à mes côtés, mon cher Patrick. Vous êtes vraiment très utile pour ramener le débat à ses fondamentaux. Donc, à l'heure actuelle, sur le plan de... pas médical, parce que c'est pas de la médecine, mais sur le plan des produits à destination des humains. Il y a donc la mégamine forte. Il y a également la lycopénomine.
Lycopénomine, voilà, il y a toute une...
Qui donc transporte cette super vitamine C, si on
voilà, exactement. En fait, donc il y a les trois fondamentaux qui sont la mégamine de base dans sa version où la zéolite est associée à des minéraux, la mégamine forte où elle est associée à l'ortie, et l'apimine où elle est associée en particulier à du pollen par rapport à l'action protectrice du pollen sur le système cardiovasculaire. Et on pourrait dire la lycopénomine, c'est dans la famille mégamine celui qui a la plus grande capacité antioxydante.
Ah,
et à partir de ça, ont été développés deux autres produits concernant spécialement le métabolisme de l'effort, c'est-à-dire de l'effort à court terme et de l'effort à long terme, où les particules de zéolite ont été associées à des composants destinés à soutenir l'effort d'endurance du sportif dans l'énergomine et à soutenir l'intensité de l'effort lors de périodes de surmenage avec la caféine extraite du thé vert. Donc là, c'est la mégamine GT comme green tea.
J'étais comme un grand touriste aussi. Vroom, vroom. Ok. Alors, ça c'est la partie humaine, mais il y a deux autres applications, soit dérivées, soit originales, je dirais. C'est l'application en matière animale. Alors ça, je crois que c'est François-Xavier Maxent qui s'occupe de ça. Moi, les noms, j'ai déjà du mal à prononcer le mien, alors ceux des autres. Vous êtes ingénieur à Grenoble.
Ouais, tout à fait.
Donc, j'ai fait mes études là-bas aussi.
Je retenais toutes mes forces.
Il fallait que ça sorte.
Oui. Non, mais il fallait, absolument.
C'était vrai. On est délivré.
On comprend pourquoi c'est le chef maintenant, il ose tout.
En plus, c'est vrai, l'école des pupilles de l'air était à Grenoble, je suis désolé, je mens pas. Pour une fois, je dis la vérité.
Des fois, je devance les gens, je la fais moi-même.
Vous la faites vous-même. Bien. Alors, vous avez une expérience en matière d'utilisation dans le milieu animal.
Dans le milieu animal, oui, tout à fait.
De ces produits. La première question qui me paraît d'actualité, c'est ce que tout à l'heure nous disait, ce que Henri Dumarac nous disait tout à l'heure à propos des effets apparemment positifs et curatifs même de cette poudre qui était destinée à servir de déodorant dans les élevages de porcs et qui a montré que ça guérissait, enfin en tout cas ça évitait certains problèmes de santé pour ces animaux charmants dont la consommation qualifie une civilisation, à mon avis. Est-ce qu'on pourrait reconduire ça en matière de volaille? Est-ce que vous pensez que si on utilisait ce produit ou un produit équivalent ou un produit travaillé dans ce sens-là dans les élevages de volaille, on pourrait lutter efficacement contre ce qui se passe en ce moment?
Fine allusion à l'actualité.
Alors je dirais que je vais parler plutôt de ce que je sais, de ce qu'on a déjà expérimenté. C'est la précaution du scientifique qui ne veut pas avancer des choses qu'il ne connaît pas. Alors nous, quand on a commencé à étudier pour ce produit pour les animaux, on a commencé à s'intéresser à l'élevage de porcs. Justement, on revenait à nos cochons parce que l'élevage de porcs est un élevage optimisé, est un élevage sensible et où il y a des fortes pressions sanitaires. D'autant plus que l'actualité est importante parce qu'il va y avoir l'arrêt des antibiotiques facteurs de croissance. Parce que dans l'élevage de porc, il y a deux grandes familles d'antibiotiques. Les antibiotiques curatifs et puis les antibiotiques dont on va se servir pour réguler une flore microbienne, etc. Et qui va avoir plutôt des incidences zootechniques, c'est-à-dire augmentation de poids, des paramètres des animaux de rente. Donc nous, on a eu intérêt à se lancer dans ces expérimentations. Donc on a contacté l'ITP, l'Institut Technique du Porc, qui fait référence en la matière. Et on leur a demandé de tester le produit et justement de le mettre en comparaison avec ces fameux antibiotiques facteurs de croissance qui vont être arrêtés. Et puis un lot témoin, on a ce qu'on appelle en aliment blanc. Les résultats de cette expérimentation, ça a été qu'on était non seulement aussi performant que les antibiotiques facteurs de croissance, mais en plus on avait des caractéristiques supérieures, en particulier dans l'homogénéité de la croissance des porcs.
Sans les inconvénients des antibiotiques qui en ont de nombreux, vous arrivez à des résultats supérieurs et mieux calibrés, si j'ose dire.
Oui, alors des résultats identiques au niveau de la croissance, etc. Et puis, sur des paramètres comme l'homogénéité, qui sont des paramètres très importants plutôt dans la conduite de l'élevage, mais qui entraînent des grosses pertes économiques pour les éleveurs.
Ce que vous appelez l'homogénéité, c'est le fait que la même génération de porcs va évoluer de la même façon.
Exactement. Parce qu'en fait, l'élevage de porcs est conduit en bande, et une bande est constituée de plusieurs cases, et l'éleveur a tout intérêt que tout le monde puisse croître en même temps pour partir en même temps à l'abattoir, sinon ça crée des problèmes de logistique.
Alors, on parle beaucoup des oméga 3 depuis quelques années. Moi, je suis bien placé pour en parler, mais je suis content qu'on en parle beaucoup parce que je crois que cette émission a été une des premières à évoquer cette question de façon un peu sérieuse avec le docteur Planté à l'époque. Et un des grands fournisseurs d'oméga 3, c'était le saindoux, la graisse de cochon. Or, on constate que dans les élevages actuels, la graisse de cochon, elle est à peu près privée d'oméga 3.
Alors, je dirais qu'il y a un phénomène plus large dans le sens où le consommateur ne veut plus de cochon gras. Et c'est en fait le consommateur qui va faire ça.
Il préfère acheter des gélules d'oméga 3 à la pharmacie à 20 euros la boîte.
Mais par contre, il y a des filières porcines qui se spécialisent dans une certaine nutrition pour que le porc puisse créer plus d'oméga 3 et en fixer.
Alors est-ce que les produits à base d'omégamine, c'est ça, je dis pas de bêtises, hein, enfin qui procèdent de la technologie,
voilà, on garde la même technologie.
Vous paraissez de nature à favoriser cette évolution, ou plutôt ce retour aux sources de l'élevage de porc?
Alors, je dirais retour aux sources, ça va paraître difficile parce que la population a augmenté, les contraintes économiques sont là, etc. Par contre, on pourrait certainement améliorer la condition animale parce que je pense que même si on dit le retour aux sources, c'est-à-dire laisser les cochons dehors, etc., je suis pas sûr que ce soit bon pour leur santé.
Il y a aussi la génétique du porc qui a changé et là, on peut pas revenir en arrière.
C'est Philippe Louvrier qui est docteur en microbiologie des sols qui nous parle.
Alors, donc je pense que tu es d'accord à ce niveau-là. On ne peut pas revenir en arrière sur une génétique. Il faudrait à la rigueur reprendre à la base et réutiliser des porcs qui aient la capacité de refaire plus de gras. Par contre, pour tout ce qui est salaison, on utilise des porcs qui font plus de graisse pour pouvoir justement faire de la salaison plus dans de bonnes conditions.
Marquis, vous voulez poser une question.
Je vais poser la question du Béotien, mais qui aime bien manger. Je m'étonne qu'on ne puisse nulle part, même sur des marchés encore très populaires, trouver du saindoux. Ça n'existe plus. Alors c'est parce qu'il n'y a plus de demande, ou c'est parce que les porcs en font plus?
Parlez dans le micro, camarade.
Oui, pardon.
Est-ce qu'il est barbu ou...
Monsieur le camarade, pardon. Monsieur le camarade.
Je pense que ça doit être surtout une question de demande.
Est-ce qu'on en fait?
J'en ai aucune idée.
Parce que moi,
produit de beauté.
Dans mon enfance, il y avait du saindoux à la maison qui servait pour faire des frites, deux, trois trucs, etc. Je ne l'en vois plus jamais nulle part. Alors, où il est, ce saindoux?
Là, autour de ma ceinture de middle.
Et moi, pendant que j'ai le crachoir, j'en profite pour dire à tout le monde, surtout, ne mangez jamais des rillettes allégées. Ou alors, mangez pas de rillettes du tout.
C'est de la merde!
De toute façon, les produits allégés, c'est simple. On vous vend plus d'air et plus d'eau.
Voilà.
C'est pas compliqué.
Écoutez bien, mesdames.
Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est quand même que, bon, à partir de cette utilisation des produits utilisant la recourant à la technologie de la à la technique de la mégamine, vous avez trouvé des solutions pour les ports. Et je reviens donc à ma question initiale. Oui, est-ce que c'est extensible à d'autres
bien sûr, parce que
d'autres élevages.
Comme l'a expliqué Henri Dumérac, c'est une action globale sur la physiologie par stimulation de l'immunité, etc. Donc c'est pas un produit qui va avoir vocation de lutter contre une maladie en particulier, mais on va dire que c'est son action globale sur la physiologie qui va entraîner un certain nombre de réactions qui va permettre à l'animal de déjà mieux se défendre lui-même face à des agressions ou face à des pathogènes.
L'intérêt quand même, c'est que ça serait que les éleveurs, par exemple les éleveurs de porcs qui font des porcs qui ont été élevés et traités de cette manière, le fassent savoir, parce que à l'heure actuelle, quand on va chez le charcutier, on ne peut pas savoir si on utilise un porc qui a été gavé d'antibiotiques de croissance ou d'antibiotiques de traitement curatif, ou s'il a été traité, ou si ces porcs ont été traités avec des produits comme les vôtres.
Non, sauf si on achète du porc bio.
Le porc bio, vous êtes sur ce marché, si je veux dire.
Ouais. Bah, nous, on n'est pas sur ce marché. Mais si vous voulez manger des porcs qui n'ont jamais eu d'antibiotiques et qui n'en connaissent pas.
Et ça, la sécurité est absolue là-dessus.
Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire sur les antibiotiques facteurs de croissance, il va y avoir un arrêt, puisque la loi va interdire d'ici l'année prochaine les antibiotiques régulateurs de flore, et donc à ce niveau-là on peut dire que on pourra être sûr que les porcs n'auront pas d'antibiotiques au moins pour tout ce qui est amélioration des critères zootechniques. Concernant les aspects sanitaires qui naissent d'une concentration, par exemple, comme on peut l'observer en Bretagne, là, on aura toujours ce problème-là. Par exemple, si on observe ce qui a pu se produire en Suède ou au Danemark, où ces pays ont arrêté, en fait, les antibiotiques facteurs de croissance, ils ont eu des problèmes de colibacillose, de diarrhée,
oui,
etc.
C'est la question que j'allais vous poser.
Assez important.
Ouais.
Ça s'est pas arrêté comme ça tout seul. Il a fallu recourir à des antibiotiques et ils étaient même les premières années à des niveaux qui étaient même plus élevés, mais aussi élevés que lorsqu'ils utilisaient les antibiotiques régulateurs de flore de façon continue. Mais en tout cas, solution...
C'est un effet inverse, c'est-à-dire qu'on arrête les antibiotiques, mais quand on arrête les antibiotiques...
Il y a une sorte de retour de bâton sur le moment, mais après, avec des conduites d'élevage appropriées, en utilisant, par exemple, nous, on est une des solutions possibles, parce qu'on a la possibilité d'offrir une pression de sélection au niveau du tractus intestinal du porc, hein. Et là, en fait, ce qu'on peut observer, c'est la possibilité d'avoir une pression sur la flore endogène du porc et également sur la flore saprophyte. C'est-à-dire, c'est quoi la flore saprophyte? C'est tout ce qui est pathogène, de manière à ce qu'on ait moins de maladies au niveau du porc. Et ça permet aussi de rendre plus efficace, en fait, le porc au niveau intestinal, c'est-à-dire qu'il va transformer plus facilement la ration alimentaire qu'on va lui fournir, et donc on va avoir plus d'efficacité zootechnique, hein, c'est-à-dire on va pour une quantité d'aliments donnée avoir une réponse au niveau de la croissance du porc qui sera plus importante.
Serge, les béotiens, les ignorants comme moi qui sont à l'écoute, et il y en a quand même quelques-uns, attendent avec impatience.
Comme vous, vous êtes à peu près le seul à être
merci.
Aussi ignorant. Merci.
Serge, ces petites flatteries ne vous mettront nulle part. Donc, ils attendent avec impatience que soit réalisée la promesse de nos amis là, qui ont l'air très compétents, à savoir l'actualité et la grippe aviaire. Je pense à une émission il y a 2 heures de ça sur Europe 1, où on avait à ma gauche, ou plus exactement à ma droite, Laurent Ruquier qui disait on affole les gens pour pas grand chose, et Gérard Miller, comme par hasard, qui disait ah là là, mais c'est comme le sida, vous vous rendez pas compte. Réponse des savants.
Ça ne s'appelle pas de la même manière.
Pour être tout à fait clair,
ça s'appelle avec des poules aussi.
Pour être tout à fait clair, aujourd'hui, on ne prend pas de risque si on va manger du poulet en France aujourd'hui, d'autant plus s'il est cuit. Ça, c'est une première chose. Et que, par contre,
c'est une bonne nouvelle. Déjà.
Voilà,
à 70 degrés, voilà. Le virus est détruit par la cuisson.
Donc, par contre, ce qui est important, et là où il y a une vraie crise, mais il ne faut pas tout confondre, c'est que la vraie crise, c'est une crise économique. essentiellement. Vous vous rendez compte, c'est milliers de poulets que si jamais ça se propage, qui vont être obligés d'être abattus. Ça c'est grave. Et ça, c'est une énorme crise. Comment des éleveurs qui aujourd'hui ont des investissements assez lourds sur les épaules vont pouvoir se remettre de ça?
C'est la crise sur le gâteau.
Voilà.
Ah ouais, je comprends. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un principe de précaution qui est appliqué dès maintenant jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que les éleveurs doivent rentrer leur volaille, et donc pour être
c'est le même problème qu'il y a eu pour la fièvre aphteuse. On a tout confondu. Mangez plus de bovins, etc. C'est exactement le même problème.
Mais vous qui êtes des spécialistes de ces questions, est-ce que ça vous paraît, moi ça me paraît totalement délirant de dire rentrez vos poules
je dirais que c'est assez rationnel au nom du principe de précaution, de se dire même s'il y a très très peu de chance qu'un oiseau qui passe au-dessus de la France pour aller en Angleterre ou ailleurs ou en Espagne puisse contaminer une poule ou un autre oiseau d'élevage, même si cette probabilité est très faible, il ne faut pas courir le risque, parce que ce serait comme
d'autant plus qu'au point de vue économique au niveau international, le Brésil est en train de se développer d'une force incroyable au niveau de la production de volaille.
Mmh. Et que écoutez, ça fait penser beaucoup à l'histoire de la vache folle qui est intervenue au moment où il y avait une explosion du marché, enfin de la production de bovines sur le nouveau continent.
Hein. Je tiens à signaler un article dans le Libre Journal qui vient de paraître et qui met en cause la mafia des labos pharmaceutiques dans l'organisation de la panique.
Oui, là c'est
parce que Laurent Ruquier a oublié de dire, je ne sais pourquoi.
Il n'a pas cité le Libre Journal.
Non,
enfin, c'est curieux.
Ça. Non, grossier et.
Tu parles d'une vache folle.
Quelqu'un demande, une auditrice demande, où en est votre instance juridique contre Laurent Ruquier?
Moi?
Bah, je ne sais pas, la question est posée.
Je ne porte jamais plainte contre personne parce que je perds tous mes procès.
Tout mon possible pour que vous ayez un procès avec Laurent Ruquier à l'instant, il me semble.
Oui, mais c'est lui qui me suivra, c'est pas le contraire. Non, moi je poursuis.
On n'en aura pas, nous dit le marquis à côté du micro.
J'ai bien pensé pour ça.
Parce que Laurent Ruquier est un garçon gentil et n'attaquera pas, même si on l'attaque. Parce que je persiste à dire qu'il n'est pas aussi bête qu'on veut bien le dire, c'est même un garçon intelligent.
Ah non, mais c'est ça.
Il l'a montré cet après-midi, ça, sans rire.
C'est un garçon intelligent.
Il faisait face à Miller qui essayait de répandre la panique.
Suffisamment d'humour.
Et il a gobé un œuf en direct à l'antenne.
Oui, parce que je vais prendre un auditeur d'ailleurs pour dire que le Miller qui sème la panique, c'est pas le Miller qui veut nous obliger à aller au cinéma, hein, c'est pas le même.
C'est son frère.
C'est le nôtre.
Miller.
Ah oui, Guy Millière, le nôtre.
À l'émission de Benjamin hier, on a signalé, Benjamin Guimard, on a signalé qu'on peut utiliser le charbon végétal en poudre pour supprimer les dangers de grippe aviaire. D'ailleurs, ça m'amène à faire une réflexion que je voulais faire déjà la deuxième fois que vous êtes venu. Votre produit me fait penser au charbon en poudre. Oui. Vous savez, quand on était gamin, qu'on nous faisait prendre du charbon et qui avait des propriétés, notamment d'absorption des produits gazeux.
Oui, oui.
Bon, ça n'a rien à voir en réalité, mais
le principe d'absorption en lui-même est le même.
C'est ça.
Après, la capacité de sélectivité dans l'absorption et la capacité de déclencher une réponse du système immunitaire sont des propriétés qui sont sélectives et qui sont évidemment obtenues par le traitement technologique.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors maintenant, on en vient à la troisième partie de cette émission.
Excusez-moi, je peux vous poser des questions sur cette partie-là? D'abord, il y a un message du docteur Plantet. Ce ne sont pas les clients qui refusent la graisse, mais le lavage de cerveau dont ils sont victimes. Les cochons ne fixent pas les oméga 3, mais les fabriquent.
Ah.
Une question. Quelle est l'action de la mégamine par rapport aux médicaments?
Alors, par principe de précaution, dans la mesure où il y a une activité d'absorption, il est recommandé de séparer dans le temps l'absorption des médicaments et l'absorption de la mégamine. Aucun cas d'interaction négative n'a encore été relevé, mais comme toujours, c'est le principe de précaution qui s'applique.
D'ailleurs, dans tous les cas. Il est indiqué sur les boîtes, par exemple, je vais jamais arriver à prononcer le nom parce qu'il est un petit, la lycopénomine, vous dites qu'il faut la prendre une demi-heure avant le repas.
Alors, de préférence, alors c'est pas une durée stricte d'une demi-heure, mais c'est de façon à ce que le système digestif supérieur soit libre pour que les particules puissent justement aller agir sur les parois de l'intestin grêle.
Non, mais il n'y a pas de danger d'interaction négative.
Alors, donc bien sûr, il est recommandé de ne pas le prendre en même temps que d'autres médicaments qui sont prescrits. Au cas où, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une activité absorbante des particules qui s'exercerait sur les médicaments. Donc, dans tous les cas, par exemple, si on prend les médicaments après le repas, il vaut mieux prendre la mégamine avant. Si on prend justement les médicaments à jeun, alors à ce moment-là, il faut trouver un créneau horaire où on puisse prendre la mégamine à jeun aussi, mais décalé de 2 heures.
J'ai un peu ce qui se produit avec les produits Beljanski, où Beljanski disait qu'il faut éviter de prendre de la vitamine C ou de l'alcool d'ailleurs quand on est sous Beljanski, parce que tout simplement Beljanski s'est pas donné, et la vitamine C et l'alcool annihilent les effets des produits Beljanski. Il y a un risque d'annihilation des
effets. C'est même intéressant de ce point de vue là parce que lors de nombreux traitements, les molécules agissent donc sur selon leur action pharmaceutique dans l'organisme, et ensuite créent des résidus. Et les résidus des molécules ont parfois du mal à être éliminés. À ce moment-là, l'action à la fois absorbante et vitalisante de la mégamine peut au contraire aider et soutenir l'organisme dans des phases de convalescence ou de traitement.
Alors, okay. Alors, il y a une question que je voulais juste dire tout de suite, puisque vous me passez le papier, Victoria. Il y a le problème, effectivement, à Paris, de la contamination par les pigeons. Ça vous paraît un danger réel?
Pour les monuments historiques, vous voulez dire?
Non, pour tout le monde. Ah, pas les pigeons.
Il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent être contaminées. Tout le monde. Non, est-ce que ça, il y a un danger de transmission, sans doute, oui,
vous ne savez pas. Honnêtement, par contre, pour répondre à l'auditeur.
C'est tellement rare quelqu'un qui accepte de dire je ne sais pas,
qu'on s'en lasse pas. Quelqu'un de diplômé.
Oui, en plus.
Par contre, effectivement, les cochons fixent les oméga 3. Il y a dû y avoir une incompréhension tout à l'heure. Enfin, les fabriques,
Voilà.
Bien sûr. En particulier avec du tourteau de lin, on cherche.
Un auditeur nous dit, concernant la mégamine, je l'ai achetée en gélule, c'est parfait, mais en poudre, ce n'est pas facile de s'en servir.
Il faut la délayer dans l'eau.
Voilà, il faut la mettre dans un seau d'eau, tourner et boire
Peut-être qu'elle se dilue mal.
Effectivement, elle se dilue pas. Elle se met en suspension. Ouais. C'est-à-dire que les particules fines sont en suspension dans l'eau. Si on les laisse reposer, elles vont décanter et aller au fond du verre. Donc il faut tourner, agiter l'eau un peu et boire dans la fosse.
On peut dire que les gens qui boivent un verre d'argile verte, c'est le même principe. Oui, il ne faut pas laisser reposer.
Et à propos de l'argile verte, on vous dit, l'effet secondaire de la zéolite est-il constipant comme l'argile?
Non, il n'y a pas de tendance constipante de la zéolite.
Et puis, dernière question intéressante, quelles sont les références, adresses plus numéro de téléphone tout ce qui concerne de la mégamine?
On va donner tout ça. Je voudrais qu'on en vienne quand même, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, à un sujet qui est absolument passionnant, surtout en ce moment, c'est la question de l'eau.
Oui.
Alors,
Dizaine de minutes pour ces messieurs, Serge.
Oui, c'est ça, oui. Le spécialiste de l'eau, c'est Fabien Vermeaud-Desroches, qui était responsable qualité environnement du grand vignoble champenois.
Oui.
Pour une très grande marque de champagne, je crois.
Tout à fait.
On peut la donner?
Je pense, oui. Donc, j'étais responsable qualité environnement au sein des vignobles Vranquenne-Pommerie.
Voilà.
Donc voilà, c'est
rien que de prononcer le mot déjà là.
J'en ai pas apporté, je suis désolé.
Non, mais j'ai noté ça d'ailleurs. On en s'expliquera après l'émission.
Tout à fait.
Alors, et vous avez créé une entreprise de nanofiltration des effluents viticoles.
Voilà.
C'est-à-dire les eaux de rinçage.
Alors, c'est vrai qu'on entend parler depuis de nombreux mois, voire d'années, de la pollution de nos eaux par les produits phytosanitaires, plus couramment appelés pesticides. Donc, travaillant dans le champagne, on avait pris la décision au sein des vignobles Vranquenne de créer des systèmes de traitement pour pouvoir traiter nos nos effluents, nos eaux de lavage, de systèmes de pulvérisation, dans le but de pouvoir les rejeter après dans le milieu naturel sans risque. Donc, on est conscient, en Champagne ou dans les autres régions viticoles, qu'il faut faire attention à ce que l'on fait. On utilise des produits qui sont potentiellement dangereux, comme les produits phytosanitaires, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces produits-là sont utilisés par des professionnels. Donc, il faut que les gens arrêtent d'avoir en tête le viticulteur ou l'agriculteur comme ils le voyaient il y a 20 ans. Maintenant, ce sont des gens qui sont ultra équipés, qui sont ultra performants et qui ont une connaissance parfaite de leurs produits. Donc, on a mis en place ce système pour aller jusqu'au bout de la démarche qualité, à savoir ne pas polluer l'environnement ou gérer au mieux la pollution liée à l'agriculture et à la viticulture en France et dans les autres régions. Donc ce système qu'on a mis en place, on va repartir un petit peu sur l'historique, c'est un système qui est purement naturel, encore une fois. On utilise de la fibre de noix de coco. La fibre de noix de coco qui est pyrolysée et qui se transforme, on vous parliez de charbon tout à l'heure, en charbon actif. Ah. Le charbon actif a la particularité...
Et pourquoi de la noix de coco spécialement?
Parce que ça marche très bien avec la noix de coco, et en plus il y a un avantage, c'est que la noix de coco est très peu chère.
D'accord. Puis la structure fibreuse de la noix de coco va créer des cartouches filtrantes dans laquelle l'eau va avoir un trajet extraordinairement complexe et qui va justement pouvoir de porter la filtration à des dimensions auxquelles on n'arrive pas.
Tout à fait. Donc là, la particularité, c'est qu'on peut descendre très très fin, donc on peut descendre jusqu'à 3 nanomètres avec nos filtres. Donc on peut arrêter des bactéries, on peut arrêter des polluants donc chimiques avec nos cartouches.
Et ces cartouches, ce système de filtration est passionnant. Il est l'objet d'un brevet mondial aussi. Alors le principe du charbon actif, il est connu et extrêmement répandu. Le principe de la fibre de coco calcinée aussi. Mais alors, ce qui est breveté, c'est le liant avec lequel les particules sont agglomérées pour justement obliger l'eau à avoir un trajet le plus complexe possible et à déposer dans la surface absorbante de la fibre de coco calcinée toutes les impuretés qu'elle contient.
Et alors, question de citadin idiot, est-ce que c'est utilisable? Est-ce qu'on pourrait imaginer des filtres comme ça qui se mettraient sur les robinets de
maison? Tout à fait.
Ça existe déjà, les filtres.
Alors, oui, mais pas par ce système-là.
Vous avez connaissance de filtres charbon actif qui existent, charbon, effectivement, puis, par ce système-là. Pas du tout de l'osmose. Donc, on est en ultra-filtration. Donc, l'ultra-filtration nous permet d'arrêter tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est produits chimiques, donc les pesticides ou les résidus de produits pharmaceutiques qu'on peut retrouver dans l'eau potable. Faut pas l'oublier. Ouais. Donc, c'est un filtre qui va remplacer le charbon actif qu'on rencontre en granulat et qui peut remplacer également tout ce qui est osmoseur, etc.
Ah oui,
donc, on a une eau qui est filtrée, qui est parfaitement potable et une eau qui est sécurisée.
Par exemple, à Paris, il y a un problème qui est vraiment souvent présent, c'est le problème de la pollution par le plomb.
Oui.
Des eaux de ruissellement. Et quand on veut récupérer des eaux de ruissellement, on est surchargé en plomb. Est-ce que votre système de filtration protège de ça?
Le système de filtration a été testé sur l'ensemble des métaux, donc sur le plomb, sur le cadmium, etc. Donc tous ces métaux sont arrêtés lors de la filtration. Donc toutes nos cartouches qui sont fabriquées en Allemagne sont testées par le TÜV, sont testées par le LGA, par des différentes universités. Donc on a des résultats concrets comme quoi nos cartouches permettent de sécuriser l'eau et d'enlever tout ce qui est résidu de fer, de plomb, de pesticides, d'odeur de chlore, ce qui est parfaitement désagréable quand on boit une eau du robinet. Donc l'avantage avec ces filtres-là, c'est qu'on n'a plus la nécessité d'acheter de l'eau en bouteille. On peut si on aime ça, mais encore une fois, on a la possibilité d'avoir une eau parfaitement potable chez soi.
Mais c'est pas une eau qui est... Oui, c'est la question que j'avais posée. C'est pas une eau qui est tuée.
Elle
est...
Non. Alors,
il y a encore les sels minéraux, il y a encore...
Tout à fait. Contrairement à d'autres systèmes qui existent pour purifier l'eau, là, on n'enlève absolument pas les sels minéraux. Donc les sels minéraux, eux, passent au travers de la cartouche. La preuve, si on veut arrêter les nitrates, parce qu'on a aussi une concentration de nitrates qui tend à augmenter, on est obligé de mettre une cartouche qui, elle, ne fera que les nitrates. Tout ce qui est sels minéraux passe au travers de la cartouche et on les retrouve dans l'eau. Donc on a une eau qui a un parfait équilibre. On garde cette eau équilibrée. En France, au robinet, on a une eau qui est normalement potable. Ce que l'on fait avec ce système-là, c'est qu'on va sécuriser l'utilisation de l'eau. Donc là, j'ai repris les analyses d'eau de la ville de Paris, donc de septembre 2005. Il y a quatre analyses, donc je ne vais pas donner les secteurs pour...
Pour ne pas semer la panique.
Non, peut-être pas quand même, mais qui ont des critères de potabilité qui ne sont pas bons. Donc ça concerne à la fois le fer, ça concerne dans un cas une pollution par des micro-organismes. Donc il y a des choses qu'il faut faire. En France, il faut bien savoir qu'en 2003, il y avait 9% de la population qui était desservie par une eau qui était en dehors des limites réglementaires de la potabilité en ce qui concerne les pesticides. Donc au moins une fois, pour 9% de la population, des personnes ont bu une eau qui n'était pas potable. Donc maintenant, il y a un réseau de mise en garde qui s'est mis en place. Mais pour être parfaitement réactif, il faudrait avoir sous son évier un système de filtration qui nous garantisse. C'est vrai que les pouvoirs publics font tout ce qu'il faut pour avoir une eau de bonne qualité. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, même si les pratiques agricoles ont évolué, même si maintenant on travaille de mieux en mieux, l'impact et la médiocrité dans certains cas de la qualité de l'eau, elle n'est pas une résultante de l'agriculture d'aujourd'hui, mais de l'agriculture d'il y a 20 ans.
Oui, c'est ça.
Donc si on prend la trazine qui est un désherbant, la trazine est interdite depuis fin 2001. Mmh. On a des concentrations en atrazine qui, dans certaines régions, ne cessent d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a le temps de percolation, donc le temps que ce produit, tout à fait, traverse les différentes strates du sol et arrive jusqu'à la nappe phréatique. Et on risque d'avoir une concentration en atrazine dans certaines régions qui va continuer à progresser et à augmenter. Donc malheureusement pour cette molécule là, c'est trop tard. Le mal est fait. Donc maintenant, on peut faire quelque chose que sur la consommation. Donc que ce soit au niveau des communes qui mettent en place des unités de plus en plus importantes pour lutter contre ces pollutions, ou que ce soit chez le particulier où là on a une garantie certaine de la qualité de notre eau.
Alors parmi les produits filtrés ou filtrables par votre système, j'imagine qu'il y a tous les produits dérivés de lessive, enfin tous les produits qui viennent de la pollution par les lessives.
Alors, au niveau de l'eau de consommation, ces produits sont arrêtés au niveau des stations d'épuration.
Donc,
s'il reste des résidus, on pourra les stopper avec nos cartouches.
Je vous pose la question parce qu'il y a également un système, alors je crois que c'est vous qui pouvez en parler, puisque la personne qui devait nous parler de ça ce soir n'est pas là, mais il est, je crois que vous connaissez le produit.
Oui, oui, tout à fait.
Il y a une possibilité en amont, c'est-à-dire chez le consommateur, d'éviter une surpollution par les lessives.
Oui, pourrait notamment.
C'est très amusant, je voudrais que vous nous racontiez, parce que c'est le produit en lui-même est rigolo. Quoi.
Bah oui, parce que c'est vrai que c'est une alternative, on pourrait dire, qui est pour une fois à la fois écologique et économique, et qui pourrait avoir un impact fort sur des quatre principales sources de pollution par les phosphates, en sachant que les phosphates vont fournir à l'eau, donc des rivières et des cours d'eau, de la matière organique qui va amener la multiplication des micro-organismes, donc une surconsommation de l'oxygène qui est dissous dans l'eau, et progressivement ce qu'on appelle une eutrophisation, plus précisément même une dystrophisation des cours d'eau, c'est-à-dire qu'il va se former dans les rivières dont le cours n'est pas rapide, une sous-couche peuplée donc d'algues, et donc rendue
obscure. Ça, on le voit voilà. Quand on se promène un peu dans la campagne.
Très facile, parce que c'est extrêmement répandu.
Terrifiant, voilà. On a l'impression que c'est gluant.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les bactéries, il y a un surdéveloppement des bactéries qui prennent tout l'oxygène, et à ce moment-là, du coup, une dépopulation. et une installation dans les couches, on pourrait dire profondes des rivières, de cyanobactéries qui, elles, sont émettrices d'un certain nombre de toxines et qui aujourd'hui pourraient poser donc à terme évidemment des problèmes importants parce qu'elles se retrouvent à la fois dans les cours d'eau, dans la mer et dans la chaîne alimentaire sans pour l'instant pouvoir être retenues par les procédés de d'épuration des eaux. Alors par rapport aux alternatives possibles pour la lessive, il y a une noix, les fameuses noix de lavage dont beaucoup de gens commencent à avoir entendu parler, parce que c'est une solution qui provient d'un arbre indien qui pousse en Inde et au Népal, qui s'appelle Sapindus mucorosi. En fin de compte, c'est un...
Ça, c'est pas en népalais que ça s'appelle comme ça.
Non. En latin. Et donc, c'est un arbre qui est un arbre non cultivé, qui est un arbre sauvage, qui pousse par groupe de deux ou trois arbres dispersés dans la nature, dans tout le nord du continent indien et au Népal. Et donc, les graines sont protégées par une écorce qui, elle-même, contient de la saponine. Alors, traditionnellement, l'écorce de cette noix a été utilisée donc en trempage pour créer une eau permettant de laver les saris indiens et les habits colorés avec des couleurs fragiles. Et aujourd'hui, est devenue, en fin de compte, une alternative aux lessives qui posent un problème environnemental, parce qu'alors, contrairement à l'impression qu'elles donnent, on utilise en mettant dans un petit sachet en coton 6 demi-coquilles de ces noix qui vont suffire, une fois qu'on les place dans le tambour de la machine à laver, à diffuser dans l'eau de la saponine et à servir d'agent lavant efficace. Alors ces noix de lavage sont présentées sur le marché dans des sacs qui contiennent 1 kg de noix, et ce kilo de noix, si on en utilise 6 par lessive, permet de faire des lessives pour une famille de 2 personnes pendant 1 an, pour une famille de 4 personnes pendant 6 mois de l'année.
Alors c'est très chic en plus, il y a un joli petit sachet en tissu, on a l'impression, ça fait très écolo, baba cool un peu.
Voilà, c'est bien présenté.
On a l'impression que c'est les produits, qu'on appelle ça les produits éthiques, non ?
Exactement,
et puis qui pose
commerce équitable.
Voilà, tout à fait. Enfin,
mais c'est très efficace.
Ça participe au développement des économies locales. Et puis c'est très intéressant sur le plan technique, parce que on pourrait dire qu'on a à partir du végétal une activité qui va bien au-delà de l'activité du composant extrait. Hein, c'est comme il y avait une étude récemment qui a par exemple comparé l'activité insecticide d'un arbre indien qui s'appelle le neem, en comparant l'activité de la molécule insecticide qu'il contient et l'activité de l'extrait végétal lui-même. Et on s'est aperçu que dans tous les cas, l'extrait végétal était beaucoup plus actif que la même quantité de molécules extraites. Et là aujourd'hui, si on fait l'analyse en laboratoire de la quantité de saponine que contient 6 noix de lavage qui suffisent pour une machine à laver, on a une quantité qui est dérisoire, qui pourtant mousse et efficace sur le plan lavant.
Vous écoutez Radio Courtoisie, et si vous n'entendez plus notre divin marquis, c'est qu'il vient de partir au Théâtre des Deux Ânes pour son nouveau spectacle Villepin-Lebret.
C'est son spectacle à lui, c'est le spectacle du Théâtre des Deux Ânes. Le
spectacle auquel vous êtes invité permanent, Serge, et peut-être que nous aurons l'occasion de reparler du Théâtre des Deux Ânes.
Oui, j'espère. Merci messieurs. Alors, on va donner des adresses utiles, parce que je sais que les auditeurs les réclament. Donc, vous les noterez tout à l'heure, je vous donnerai le papier, Victoria.
Oui.
Alors, d'une part, il y a toujours la mégamine, c'est lieu-dit Hinterwald.
Hinterwald.
Vous ne pouvez pas avoir une adresse un peu plus compliquée, qu'on rigole un bon coup.
Attendez, vous n'avez pas vu le nom de la ville.
Hinterwald.
Hinterwald.
67250 Unsbach. Hunsbach. C'est la passe des 1, c'est par là qu'ils sont passés les 1, je suppose.
Oui, ça vient de là.
Téléphone 03 88 80 59 75. 03 88 80 59 75. Le traitement des eaux dont nous avons parlé avec monsieur Vermeaud-Desroches, c'est la société Ecobulle. Ça, c'est plus facile à retenir.
Tout à fait.
25 rue des Compagnons, 51 350. Cormontreuil, Cormontreuil. Téléphone 03 26 03 74 93. Et puis la société Ecoidée, C'est
Ecoidé, c'est pour la mégamine, c'est l'adresse et le numéro de téléphone que vous avez.
Et alors, pour vos produits phytosanitaires, est-ce qu'il y a un endroit ou un numéro, une adresse à laquelle on peut s'adresser?
Alors, c'est le 03 88 05 69 99, et c'est à la même adresse.
Alors, c'est Fabien, c'est monsieur Maxent. Voilà. 03 88 05 69 99. Donc c'est la même adresse que celle que je viens de vous donner.
Les animaux d'élevage.
25 rue des Compagnons, 51 350. Toutes ces adresses, je les mettrai dans le prochain numéro du Libre Journal. Ça sera beaucoup plus simple. Et vous pourrez les réclamer. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir donné un peu d'espoir.
Merci.
D'échapper à la grippe aviaire, d'échapper à l'empoisonnement du Saint-Doux, d'échapper aux eaux polluées et de faire des lessives qui polluent. Merci bien. Et puis surtout, ce que je voudrais saluer, c'est votre jeunesse et votre détermination, parce que vous avez créé des sociétés, vous avez inventé des
produits. Je dirais, je pensais qu'ils avaient 14 ou disons 20 ans.
20 ans, ils ont 20 ans. Cette jeunesse.
Ceux qui sont jeunes ou c'est nous qui sommes vieux.
Cette jeunesse n'est pas totalement désespérée, quoi. Faut bien dire. Merci encore.
Merci à vous. Merci. On fait tous jeunes, mais c'est parce qu'on prend de la mégamine, c'est pas
bravo. La mégamine donne bonne mine.
Donne une mégamine.
Assume, vous en une danse.
Oui. Non, c'est votre talent de créateur de slogans qui m'a. Alors, François Bousquet, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu. Bonjour.
19h30.
Voilà, mais c'est sans doute de ma faute parce que j'ai dû penser 19h, vous dire 19h30. Mais c'est pas grave parce que. Enfin, c'est embêtant parce qu'on vous a fait venir pour pas grand chose, mais. Enfin, pour pas longtemps.
Si.
Mais je voudrais que vous reveniez.
Qu'est-ce qui se passe à 19h30, on va le dire quand même. Hein. On est une véritable revue de presse.
Une vraie revue de presse.
Avec Anthony, Smith de présent, Daoudal de National Hebdo.
Heureusement que je suis en avance alors. Oui. Donc.
Vous êtes en avance par rapport au retard que vous.
Vous auriez pu écoper de quelques articles pour votre livre qui vient de paraître, Jean Dernalier, ou Le narcissique parfait chez Albin Michel.
Alors, ce que je veux dire de ce bouquin, mais vous êtes d'accord pour revenir en parler, parler d'Allier plus longtemps.
D'accord,
moi, je vais
ça
parler
roule,
du livre ce soir, moi en parler, et dire que. C'est très 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 rare, vraiment très rare, de trouver un livre qui est parfaitement en phase avec son sujet, dans le style. Or, mon cher François Bousquet, j'ai le regret de vous dire que vous êtes apparemment un grand écrivain.
Ah.
Alors, j'ai lu ce bouquin et puis en arrivant tout à l'heure, j'ai dit au marquis, regardez ça. Il a lu le premier chapitre, enfin le début du premier chapitre. Il m'a dit, je sors et je vais l'acheter.
Ah, c'est pour ça qu'il a essayé de me piquer le nom.
Ouais. C'est un magnifique bouquin. C'est écrit dans un style.
Bah écoutez, merci. Merci. Je suis très touché que ça vienne de vous, puisque moi j'aime beaucoup votre plume, j'aime beaucoup vos articles, votre personnalité.
Mais moi,
je suis très touché.
Un petit garçon de rien du tout. Non, c'est vrai. Il y a un portrait d'Edernalier au début.
Moi, c'est un personnage qui a traversé ma jeunesse, donc j'étais très attaché à lui. Je suis revenu, enfin l'écrivain, je me suis détaché progressivement de l'écrivain, mais le personnage, c'est un accident une fois par siècle, débarque sur Terre un extraterrestre.
Un accident miraculeux,
oui.
Et alors vous écrivez, je lis un tout petit passage, vous dites... Il nous a éblouis, j'insiste, aucun autre ne nous a éblouis comme lui. Il y aura toujours des quantités de littérateurs, de journalistes, d'imbéciles, mais plus jamais un Jean Ederne. C'est l'absolument impossible de la logique, la probabilité zéro qui a défié 60 ans durant les lois de la physique sociale. Il avait dû inhaler du gaz moutarde ou recevoir une bombe atomique sur la tête. Et alors écoutez la suite. Chaque matin, il sautait du lit avec 39 degrés de température. Le soir, ça fumait de partout. Toujours ivre, enivrant, endiablé. Il chiquait des bâtons de dynamique en buvant de la vodka inflammable, les allumettes à la main et le visage en feu. D'aspect sinistré et disjoint, il donnait l'impression de sortir d'un tableau cubiste avec un côté éclaté, propre aux bombes à fragmentation et aux personnalités multiples. Et tout le bouquin est comme ça.
Très touché de votre lecture.
Hein. C'est une leçon d'écriture.
Et je peux en faire une autre parce que pour compléter, parce qu'on a l'impression que c'est un livre hagiographique et il y a des passages très cruels comme celui-ci. Nous parlons toujours de Jean Edernallier, voleur, tricheur, poseur de bombes, kidnappeur, kidnappé, là émeutier, ici plagiaire, ailleurs maître chanteur, simulateur pleurnichon et pleurnicheur simulant, échafaudant un plan média véritablement prodigieux, digne des pieds nickelés qui était censé le faire connaître à la terre entière. Et il y a des passages encore plus cruels.
Disons alors, c'est un pamphlet amoureux, donc il y a en effet un côté polémique, pamphlétaire, mais il y a aussi un acte de vénération et de dévotion pour un personnage que j'ai réellement adoré.
En réalité, on a connu ce personnage, on le retrouve et là, on retrouve.
Bah vous l'avez connu, donc j'espère.
Bien sûr, puisque c'est même à cause de lui, si j'ose dire, que j'ai eu l'honneur et l'avantage d'être écouté par ces messieurs de la
cellule antiterroriste,
la police, la police des écoutes. Mais c'est un livre très profond en même temps, parce que vous avez bien vu le personnage dans sa dimension complètement tragique.
Oui, non, il faut essayer de tracer. Tout était comique en Assange chez lui, rien n'était tragique, c'est sa grandeur. J'ai essayé de faire le portrait d'un valet de comédie, d'un valet de Molière, hein, ouais. Selon le personnage que notre société, qui est très normative, hein, très hygiénique, a mis de côté.
Mais à ce degré de comique, il y avait quand même une dimension tragique, ça, c'est parce que. Par exemple, j'ai jamais pu savoir s'il se prenait au sérieux ou pas du tout.
Moi non plus. Incapable de répondre à cette question.
Mais la synthèse, c'est la société du spectacle, parce que vous finissez par démontrer que c'était un écrivain sans œuvre.
Il n'y a aucune œuvre. Disons que tout son génie, il l'a mis dans sa vie. Donc, je dis dans le livre que c'était le feuilletoniste de sa propre vie. Donc là, en réalité, moi, j'ai pas voulu jeter le bébé avec l'eau du bain, ce que les précédents biographes avaient fait. Donc, on avait tout jeté. Moi, j'ai jeté la bibliographie, en l'occurrence, le livre.
Vajda, notamment, de Vajda. C'est un bouquin de pure haine peignée.
Oui, Stèle pour Ederne.
Qui est complètement à côté. Stèle pour Ederne, c'est une
agiographie.
C'est une agiographie inconditionnelle par un très jeune homme. Très jeune homme, qui, c'est pas très bien écrit, je ne vais pas dire du mal de Le Guern, c'est assez scatologique. Hein. C'est un éloge assez raté de Jean Ederne, mais en tout cas inconditionnel. Hein. Donc moi je me suis débarrassé du bibliographique, à savoir donc l'œuvre. En effet, c'était pas un écrivain, mais c'est un personnage exceptionnel. Donc j'ai racheté, en quelque sorte, c'est un grand mot, le biographique chez Jean Ederne. Hein.
Alors en plus, c'est un bouquin de révélation, parce que on découvre le mécanisme de maître chanteur.
C'est
un maître chanteur
exceptionnel.
Faut le dire quand même, voilà, clairement.
Et c'est ce qu'il a encore nous.
De maître chanteur.
C'est un maître chanteur. Il faut en même temps l'arracher au spectacle pour compléter, et corriger. Ce que vient de dire Patrick Goffman, mais en tout cas le compléter. C'est un héros du médiatique, c'est incontestable. Mais c'est aussi un héros carnavalesque. Hein. Et ce genre de farceur, de larron, on appelait ça un larron autrefois. Mmh. C'est un larron du Pont Neuf. Hein. Donc ça rajoute à la beauté du personnage, son côté inactuel, archaïque, médiéval. Hein.
Le Pont Neuf étant remplacé par les télévisions.
Voilà.
Ouais. Et puis, alors ce qui apparaît à la lecture de votre livre aussi, c'est la totale inadéquation entre Jean Edernallier et le milieu auquel il s'attaquait. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, un homme comme Mitterrand, l'intelligence de Mitterrand, la perception de Mitterrand, de la sensibilité de Mitterrand, il aurait dû en faire une bouchée.
De Jean Ederne,
ouais.
Oui, non, c'est impossible.
Or, il peut pas, il y a trop, c'est comme une.
On peut pas l'arrêter.
Quand on dirait, vous savez, quand les pattes de cochon, les pattes de porc, il y a que de l'os. Chaque fois qu'on essaye de se régaler, on a l'impression qu'on tombe sur des petits morceaux d'os sans arrêt. Et il peut pas le bouffer à cause de ça.
Non, c'est impossible.
Il lui échappe, il glisse, il est gluant, il est.
Non, il va toujours trop loin,
il va toujours trop loin, tout le temps. Non, il s'arrête pas.
C'est un parodique,
alors. Moi, je me souviens d'un repas un verre qu'on avait pris à la closerie des Lilas.
Où c'est son QG à l'époque.
C'était son QG. Et où il vidait littéralement une bouteille de vodka. J'étais allé, parce que des buveurs de vodka, j'en ai vu, mais comme ça, jamais. Et en même temps, il sniffait de la cocaïne.
Ouais.
Mais en public. Moi, je ne savais pas où me mettre. Je me disais, mais quelle horreur, les flics vont arriver, ça va être tous embarqués et tout.
Non, on pouvait l'embarquer, il n'avait aucun mécanisme d'autocensure. Et en plus de la vodka, le matin à 8h, la cocaïne pendant un certain temps, mais la cocaïne, c'est très usant physiquement, donc les infarctus, les attaques cardiaques, hein, mais les cigarettes, hein, 80 cigarettes par jour.
Et
pendant 40 ans, c'est-à-dire que le corps est
gargantuesque.
Il est gargantuesque.
Parce que comment il a pu résister pendant 60 ans à ça?
Moi, je pense qu'un corps est programmé pour tenir 60 ans à ce surdosage de stupéfiants, de toxiques.
Hein. Alors,
au-delà, il s'écroule. Hein.
Je ne vais pas vous demander de répondre à cette question en une minute, mais vous reviendrez, on fera un
très bien,
plus long.
Plaisir,
parce que c'est un personnage fascinant, puis en plus, c'est un éclairage sur la 5e République. Mitterrand,
Et moi, j'aurais des questions à vous poser, puisque Mazarine et...
Alors, on a fait l'enquête ensemble.
Voilà, donc Mazarine. Vous avez travaillé avec lui.
Nous parlions donc...
Est-ce qu'il a été assassiné?
Non, je crois pas. Non. Ça, c'est Carl Zero qui a lancé ça. Il aurait pu être assassiné, ça avait 80. Mais en 97, il n'y avait plus aucune raison pour qu'il soit... C'était trop tard. Hein. Ouais. Donc, ce serait formidable. Hein. Il y a un livre de Cladel qui est, que j'aime beaucoup, que Baudelaire adorait, qui est Les Martyrs Ridicules. Hein. Mm-hmm. Donc, il a un côté martyr ridicule. Mais il n'était pas martyr. Hein. Ou il n'était pas ridicule, ou les deux, mais enfin, qu'importe. Hein.
Nous parlions donc du livre de François Bousquet, Jean Edernalier ou le narcissique parfait, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et qui coûte seulement 13 €, tout texte compris.
Ça, c'est un bonheur de lecture inégal.
Dans les bonnes librairies et même quelques mauvaises.
Et un dernier mot, une dernière phrase. Il avançait en zigzagant à la vitesse d'un missile instable qui traversait les départementales de Bretagne à 150 km à l'heure, sans permis de conduire, cela va sans dire. Une main sur le volant, l'autre sur la vodka. Avec son œil valide, il suivait la ligne blanche en proférant son code de la route à lui. Je ne conduis pas, je vise.
C'était un fou authentique. Hein. Merci à vous.
Chers auditeurs, bonsoir. Bernard Anthony au micro dans le cadre de l'émission de Serge de Bekech. Les invités ce soir sont Jeanne Smith, directrice du journal quotidien Présent, Cécile Montmirail et Yves Daoudal, chroniqueur, éditorialiste de National Hebdo et rédacteur en chef de Reconquête. Nous allons, si vous le voulez bien, dans le cadre de cette émission de La Réplique, commencer comme de coutume, par le coup de gueule du jour, et ce sera le coup de gueule d'Yves Daoudal.
Oui, c'est un coup de gueule qui est tout récent, c'est une information qui date d'aujourd'hui. J'ai appris que Cherry Blair, la femme de Tony Blair, Premier ministre britannique, était invitée à un dîner de gala en Australie, un dîner de gala en faveur de l'Institut australien contre le cancer des enfants. Un dîner de gala qui était naturellement destiné à récolter de l'argent. Le dîner a permis de récolter 192 000 dollars australiens, 192 000. Sur ces 192 000 dollars, 16 000 sont allés à l'Institut australien contre le cancer des enfants et 40 000 sont allés à Cherry Blair. Cherry Blair a eu 40 000 dollars, l'Institut a eu 16 000 dollars. Alors que 192 000 dollars ont été réunis. Alors, c'est quelque chose, j'en veux pas spécialement à Cherry Blair, c'est l'exemple que j'ai, je suppose que cela se produit à peu près partout, avec des gens célèbres quand ils sont invités. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est que c'était en faveur d'instituts contre le cancer des enfants. Et voilà, le cancer des enfants, ben, ils récoltent même pas le dixième de l'argent récolté. Alors que Cherry Blair a plus de trois fois plus d'argent pour elle uniquement parce qu'elle est venue manger. Voilà.
Vous savez, le cancer, c'est pas perdu tout pour tout le monde, si je puis dire. On avait eu évidemment l'abominable détournement de fonds pendant des années de l'ARC, l'association donc française de recherche contre le cancer. Mais je dois dire que la pratique de ce qu'il faut bien appeler un détournement de fonds dans les organisations humanitaires, certaines avouent le plus cyniquement du monde que 70% des fonds récoltés vont à ce qu'ils appellent la conscientisation. Voilà pourquoi, je le dis, mais nous étions tout petits, lorsque nous avons fait vivre à Chrétienté Solidarité pendant des années, pendant 15 ans, 3000 petits-enfants au Liban, bien nous avions réussi le tour de force de ne rien prélever pour les frais de gestion, c'était un vœu, et l'argent était utilisé à 100%, allant de familles françaises à petits-enfants du Liban. Nous n'aurions pas pu tenir si nous avions été une grande organisation, mais enfin avec 5 ou 10%, cela me semblait déjà énorme. Et lorsque je regardais les chiffres, je ne citerai pas parce que je n'ai pas les chiffres actuels, c'était à l'époque, lorsque j'étais au Parlement européen, que je faisais ces choses-là, j'avais donc eu des chiffres jusqu'à 70% de conscientisation. Voilà. Avant de laisser la parole à Cécile Montmirail, qui va dans le distribuer, si je puis dire, le travail de la réplique de ce soir, puisque je rappelle aux auditeurs qui ne nous connaîtraient pas que notre émission est un peu à l'image du dictionnaire de la réplique, qui continue de bien se vendre, qu'on peut toujours acquérir au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, que ce dictionnaire a été fait pour répondre au lieu commun, au mensonge, à la désinformation. On vous dit que et on répond que. Alors, avant de commencer ce soir notre travail de réplique, je voudrais dire que nous allons faire une réplique dans la rue à l'abomination qui se prépare d'une déclaration, en quelque sorte, de repentance de la France qu'exige M. Bouteflika, le chef de l'État algérien. Je rappelle ici que M. Bouteflika est issu directement du FLN, qui pendant donc toute la guerre d'Algérie, qui avait commencé par le massacre des époux Monroe, des instituteurs, et puis ensuite tellement, tant et tant de massacres, d'abominations, le génocide des Harkis, les femmes d'Oran, nos pieds noirs enlevés par milliers dans les événements de 62, etc., etc. Nous l'évoquerons prochainement. Eh bien, nous allons nous demander la repentance à M. Bouteflika, qui serait nécessaire pour que des relations normales puissent s'instaurer entre la France et l'Algérie. Et je confie donc avec mes amis Alain Sanders, du journal Présent, Jean-Pierre Cohen, du Cercle d'amitié française juive et chrétienne, Marie-France Tirbois, Roger Olindre du CNC, Jean-François Collin de l'ADIMAD, je n'ai pas la liste de tous, elle se gonfle chaque jour un peu plus, avec les organisations donc de l'honneur français et le mémorial de l'honneur français que nous avons fondé, Roger Olindre et moi, nous appelons donc à la manifestation devant l'ambassade d'Algérie le 3 novembre à 19h. Le 3 novembre à 19h, l'ambassade d'Algérie, c'est 50 rue de Lisbonne, mais on nous fait des difficultés à la préfecture de police, on ne veut pas nous dire où nous pouvons nous rassembler. En tout cas, le rassemblement sera tout près de là et probablement place Rio de Janeiro dans le 8e. Je dis bien contre, pour la repentance de Bouteflika et de l'Algérie Fedaga, manifestation place Rio de Janeiro, 19h, le 3 novembre. Cécile Montmirail, vous avez toutes les questions qui se posent, les répliques qui doivent être aujourd'hui données à une actualité particulièrement riche. Je vous laisse la parole et je répondrai, comme nos deux autres invités, aux questions que vous voudrez bien nous poser.
Oui Bernard, bonsoir à tous. Ce n'est pas les articles qui manquent auxquels il faut malheureusement répliquer ce soir. Alors, beaucoup d'articles cette semaine sur la conférence internationale de l'homoparentalité qui s'est tenue à Paris. Donc, le Figaro du jour, du 26 octobre, rend compte donc de cette conférence. Alors, que lui reprocher, Jeanne Smith, peut-être vous pouvez commencer à répliquer.
Alors, ma réplique, elle ne sera pas de fond, parce que je crois que sur l'homoparentalité, nous sommes tous d'accord autour de cette table. Ce qui m'a interpellée, comme on dit, c'est l'article, ou même les articles successifs du Figaro sur la question. Alors, le Figaro, nouvelle formule, ça ressemble à un site internet, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de place pour la publicité, et puis il reste quand même un peu de place pour ce qu'on appelle le rédactionnel, et il y a notamment Delphine de Malvoué, qui a un très joli nom, et qui s'exprime sur la conférence qui réclame la reconnaissance internationale de l'homoparentalité des unions homosexuelles. Eh bien, elle raconte tout ça avec beaucoup d'aplomb, avec un esprit parfaitement factuel, comme on dit dans le métier. Elle va venir nous dire qu'Edwige Gentier, pédopsychiatre bien connu et bien en cours, notamment auprès de Chirac, est plutôt contre. Elle est pour un statut de parrain, pas de parent. Bon, c'est... on trouve ça pas mal. Et puis, quelle est la dernière ligne de son dernier papier sur la question? Elle évoque Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a fait une allocution remarquée hier, raconte donc Delphine de Malvoué dans le Figaro. Eh bien, l'intérêt de l'enfant ne peut pas être en question dans cette affaire de l'homoparentalité, car la Convention des droits de l'homme garantit le respect de la vie familiale dans ses textes, donc que ce droit soit accordé à tous. Eh bien, je suis personnellement scandalisée que Le Figaro se jette à corps perdu dans cette espèce d'indifférentisme qui est voulu par le concept d'homophobie réprimée, eh bien oui, Le Figaro, qui se veut le journal de droite, enfin un peu moins peut-être encore maintenant que naguère, il marche dans l'affaire, il reste parfaitement neutre. Eh bien, je crois que sur ces questions-là, on n'a pas du tout le droit d'être neutre.
Oui, alors effectivement, le Figaro semble ressembler de plus en plus au Monde, car les articles qui ont été écrits sur cette conférence dans le Monde, en gros, sont du même acabit que ce que nous avons pu lire dans le Figaro. Je vais citer par exemple Le Monde du 25 octobre qui dit qu'il faut sortir de l'ordre symbolique qu'il vaudrait que l'on ait deux parents, père et mère, et de l'adéquation géniteur-parent. Alors peut-être, Yves Daoudal, pouvez-vous répliquer à cela? Est-ce que cela vous paraît aberrant que l'on puisse dire que d'avoir un père et une mère, c'est un ordre symbolique contraignant?
Je crois que c'est l'idéologie à la mode actuellement, c'est l'idéologie du genre qui commence à se répandre vraiment partout, y compris maintenant dans les journaux, alors que il y a encore pas longtemps, je me rappelle, quand je crois que c'est Christine Boutin à l'Assemblée nationale qui en avait parlé, et puis aussitôt on a vu des réactions de députés socialistes, de députés UMP qui disaient « mais de quoi elle parle, on n'a jamais entendu parler de ça, etc. » Je crois que maintenant ça se développe de plus en plus, c'est-à-dire que il n'y a pas d'identité sexuelle donnée. Donc à partir du moment où on n'a pas d'identité sexuelle, chacun construit sa sexualité comme il l'entend, chacun construit son identité sexuelle, et donc construit aussi son idée de parent, d'identité de parent ou de pas-parent, ou de mère, ou de père, quel que soit son sexe. Enfin, on arrive à la subversion la plus totale. Et l'un des grands théoriciens français de la chose a été Michel Foucault. Et là, je voudrais signaler un livre tout à fait remarquable, mais pas facile à lire, parce que c'est écrit par un philosophe, par un jeune philosophe, qui s'appelle Le mariage gay, où justement il consacre plusieurs pages aux théories de Michel Foucault là-dessus. Thibaut Collin, il s'appelle, je crois.
Donc c'est un livre qui nous aide à comprendre cette idéologie.
Oui, c'est un livre qui va jusqu'au fondement philosophique de cette histoire de mariage gay, de mariage homosexuel, de soi-disant mariage homosexuel. Justement, vraiment à la racine idéologique de la chose.
Oui, j'aurais envie d'ajouter après Yves Daoudal que il y a effectivement l'idéologie du genre, mais il y a aussi toute la réflexion bioéthique telle qu'elle se pratique maintenant et qui fait de l'enfant un être qui commence à exister à partir du moment où il existe un désir chez ses parents, et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'avortement, parce que les parents, s'ils ne désirent pas un enfant, ne le font pas exister, donc peuvent le supprimer sans problème. Et à partir du moment où Madame désire un enfant et qu'il se trouve être conçu ailleurs, dans un utérus de prêt ou de location ou ce que vous voulez, ça n'est pas le géniteur, comme dit Le Monde, qui lui donne son être, ce sont les parents par leur désir, et les parents quels qu'ils soient. Donc tout ça, je crois, relève absolument d'une même logique.
Oui. Alors effectivement, vous disiez avec justesse, Jeanne Smith, que le Figaro devenait, disons, à la botte du politiquement correct. On a lu aussi cette semaine un article hallucinant sur trois mères pour Charlie. Alors bon, c'est pour nos auditeurs qui l'auraient pas lu, on en apprend qu'une mère qui voulait avoir un enfant mais qui pouvait pas a pris un ovule de sa sœur et elle a donné à son autre sœur qui a porté l'enfant. Et donc on assiste à une banalisation de ces histoires, comme si cela faisait partie de la normalité. Alors ça nous amène à une autre affaire, hein, que nous avons connue spécifiquement à Paris. Nous avons eu une campagne de publicité scandaleuse dans les couloirs de du métro parisien. Donc nous avons donc subi, il faut bien le dire, des photos où des femmes s'embrassaient ou des hommes s'embrassaient. Alors je m'adresse à vous, Jeanne Smith, quelles ont été les répliques que nous avons faites sur cette campagne?
Alors, réplique, fallait-il répliquer à cette ignominie? C'est la première question, et une ignominie qui continue de s'étaler, et sur les murs du métro, comme vous l'avez bien dit, Clarisse Montmirail, mais également sur les dans les affichages devant les cafés et les bistrots, ça continue. La première réaction, c'est bien sûr ne pas entrer dans ces cafés et ces bistrots, bien que les pauvres bistrotiers n'y soient pour rien. Et encore, ne pas descendre dans le métro, c'est pas toujours facile. Mais je crois profondément que cette campagne qui est faite pour un salon gay qui s'appelle Rainbow Attitude, où ni vous, ni moi, ni personne autour de cette table, et je salue Serge Beckett qui est là, n'ira traîner ses guêtres, eh bien ces communautés-là ont tous les moyens de connaître son existence. Ils ont leurs bars gays, leurs agences de voyage gays, ils ont absolument un monde parallèle. Pourquoi viennent-ils affiché pour cette campagne dans les murs sur les murs de Paris? Je crois personnellement que c'est un test.
Je crois que Serge de Bétchet veut dire un mot, je me permets de lui donner la parole.
Oui.
Je crois que effectivement c'est une très très bonne question. Alors pourquoi ils se sentent obligés de faire cette publicité dans les lieux publics? Et la réponse, elle est peut-être dans la position de ces publicités, car on voit que ce sont des publicités qui sont notamment dans les escaliers. Ils sont exactement à hauteur d'enfant.
Devant les bars aussi, c'est pareil.
Voilà. Et il s'agit tout simplement de faire une... Moi, je pense qu'il y a un arrière-plan qui est de banaliser aux yeux des enfants un comportement qui les choque, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais les enfants, ils ne comprennent pas quand ils voient ce spectacle étrange de deux hommes qui s'embrassent sur la bouche ou de deux femmes qui s'embrassent sur la bouche. Et ils disent à leurs parents... Qu'est-ce qu'ils font les messieurs? Qu'est-ce qu'elles font les dames? Et les parents qui ont été vaccinés aux politiquement corrects disent « Ah bah tu sais, c'est un monsieur qui aime un monsieur, comme ton papa il aime ta maman, etc. Mmh. » Et le gosse finit par se dire que oui, bah, c'est une conduite absolument banale et que c'est une conduite qui devient finalement normative. Donc il s'agit véritablement d'une opération de modification des comportements naturels, et c'est pas la seule. Je cite dans le livre journal les activités d'une association qui s'appelle le CRIPS, et qui est une... Alors le prétexte donc du CRIPS, c'est d'être un centre régional d'information et de prévention du sida. Derrière l'affaire du sida, on met tout ce qu'on veut. Alors en l'occurrence, le CRIPS distribue des bandes dessinées qui sont intitulés « Les filles guides du corps féminin au-dessous du soutien-gorge, les garçons guides du corps masculin au-dessous de la ceinture ». Et voilà ce qu'on peut lire dedans à propos de la masturbation. C'est sans danger et c'est donné à des enfants prépubères. Hein. Attention, c'est pas des adolescents, c'est pour des enfants prépubères. C'est le CRIPS lui-même qui annonce ça. C'est sans danger, d'autres le font, enfin fais-le si tu veux, certains le font tous les jours, d'autres moins souvent. À propos des expériences homosexuelles, tu peux avoir de l'attirance sexuelle pour les hommes, pour les femmes ou pour les deux, ne te laisse pas enfermer par tout ce que les autres disent. Là-dessus, il donne un numéro de téléphone, qui est un numéro de téléphone d'information, soi-disant à l'usage des enfants. Et ce numéro de téléphone, il est géré par un monsieur qui s'appelle Monsieur Le Raton, qui est un auteur de livres homosexuels pornographiques, de films cochons, c'est un ancien du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui appartient aujourd'hui même au groupe des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Vous savez ce que c'est? C'est l'espèce de folle perdue qui se déguise en bonne sœur pour venir dans les manifestations.
Ce sont celles que la Griffe a fait condamner à Toulouse dans l'affaire de Sainte-Catherine.
Alors, savoir que le CRIPS, c'est dans les bureaux de la Tour Montparnasse, qu'il représentait dans toutes les régions de France, que à Paris, la présidente, c'est Madame Hidalgo, et le vice-président, c'est le préfet Bertrand Landrieux, qui était l'ancien directeur du cabinet de Chirac. Et il faut savoir que cette association, elle touche 5 millions d'euros à Paris, de la région, de la préfecture, du ministère des Affaires étrangères, de la mairie de Paris et de la sécurité sociale pour faire ça. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils font comme autre activité, en dehors de ce que je viens de vous dire? Ils fabriquent un petit objet sympathique qui s'appelle le manège enchanté. Alors, quand on dit le manège enchanté, vous pensez comme moi, enfin, vous êtes peut-être un peu jeune, Cécile Montmirail ou Jeanne Smith, mais le manège enchanté, c'est Margot, c'est Zébulon, c'est Pollux, c'est Tournicoti, Tournicoton, etc. Ben, non, le manège enchanté, c'est plus ça du tout. Là, je lis la définition du manège enchanté donnée par le CRIPS. Le manège enchanté aujourd'hui, c'est un plateau tournant sur lequel sont disposés 5 phallus en résine de taille et de couleurs différentes qui permet une démonstration de l'utilisation correcte du préservatif et favorise les discussions autour des différentes morphologies et des pratiques sexuelles. Le CRIPS organise un concours mondial, un championnat du monde d'utilisation du préservatif. Et tout ça, ça nous coûte, ça coûte aux contribuables de la région parisienne 5 millions d'euros de subventions par an. Et il y a le même CRIPS en région PACA, en région Rhône, en région, dans toutes les régions de France. Voilà où on en est arrivé. Donc, il s'agit réellement d'une opération de sidération mentale à l'usage des enfants. Parce que pourquoi appeler ça le manège enchanté si ça n'est pour séduire des gamins qui ne sont même pas pubères? C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est criminel.
Oui, donc c'est une véritable opération de subversion. Donc, Jeanne Smith, fallait-il
réagir? Oui, mon avis, c'est quand même, c'est bien sûr une opération de subversion qui est aussi un test, parce que l'on veut savoir si les gens réagiront et pour savoir jusqu'où on peut aller plus loin la prochaine fois. Et donc, il est possible de réagir. La Griffe en a donné l'exemple en appelant très clairement à s'opposer à la campagne d'affichage dans le métro. On y voit des lesbiennes et des gays qui s'embrassent à pleine bouche. Eh bien, pourquoi les voit-on? Parce que la haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, la HALD, a imposé cette publicité contre l'avis du bureau de vérification de la publicité. Donc, la Griffe a publié un communiqué, c'est tout à fait dans ses attributions, pour demander à chacun de réagir auprès de la société de diffusion de publicité de la RATP. Ça s'appelle Métrobus. On peut leur écrire au 9 à 11 rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine. On peut également réagir à info@metrobus.fr et la Griffe demande surtout d'envoyer un double de votre courrier à la Griffe. Alors l'adresse postale 70 boulevard Saint-Germain 75 005 Paris ou bien encore par mail à agriffe@wanadoo.fr et on peut ajouter que l'on peut réagir très facilement sur le site du bureau de vérification de la publicité. Vous allez sur www.bvp.org, vous y avez une rubrique dédiée à cet effet. Réagir à une publicité, là, vous faites une petite lettre bien sentie. Moi, j'en ai fait une. Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est bien la première fois. J'ai déjà réagi à d'autres publicités. Et généralement, on vous répond fort courtoisement. Et là, comme le BVP lui-même était contre, parce que cette publicité, disait-il, allait choquer la frange de la population la plus attachée aux valeurs traditionnelles. Moi, ça m'est égal d'être en frange, en marge dans cette affaire. Eh bien, le BVP peut réagir et il faut réagir. Et il faut encore réagir parce que cette affaire est proprement scandaleuse. Et sur le CRIPS, je voudrais ajouter que présent, il consacre également un papier, le hasard des choses, qui paraîtra dans le numéro de vendredi.
Alors, il y a beaucoup de personnes, de familles qui ont réagi, mais qui ont écrit à la RATP. Donc, est-ce que l'action aussi d'écrire sur le site de la RATP sert à quelque chose dans l'action que mène la Griffe, ou est-ce qu'il faut...
Eh bien, il vaut mieux réagir auprès du diffuseur du bureau de régie publicitaire de la RATP, bien sûr, à l'adresse donnée par la Griffe. Mais rien ne vous interdit de réagir également auprès de la RATP, auprès de la HALD, pourquoi pas. Peut-être nos adresses seront-elles fichées. Je crois que nos opinions, à vous et à moi, sont désormais suffisamment connues. Et puis, il faut avoir le courage de ce qu'on pense.
Serge, ça, oui, ça mérite une réflexion d'ordre législatif, enfin légal en tout cas. Parce que à l'heure actuelle, à la suite d'Internet, à la suite de la propagation des sites pornographiques sur Internet, il y a eu un renforcement extrêmement sévère de la loi. Alors, j'ai plus l'article en tête, je l'ai cité dans le dernier numéro du Libre Journal, mais je l'ai plus en tête, de la loi qui réprime le fait de proposer à des enfants des images à caractère pornographique. Or là, on est exactement dans cette situation. Il est parfaitement clair que de montrer des homosexuels s'embrassant à pleine bouche, ça constitue une image pornographique, et que l'exhibition de ces images pornographiques dans un lieu public comme le métro à la portée des enfants, ça consiste à mettre à la portée des enfants des images pornographiques. Je pense qu'il y a une possibilité sérieuse de poursuivre alors l'auteur, enfin le complice de cette action, qui est la RATP. Même si la RATP a essayé de s'y opposer, et si on lui a donné l'ordre de le faire, je vous rappelle que la HALD elle est soumise, comme toutes les associations, comme toutes les organisations et toutes les institutions, à la loi générale. Et la loi générale, elle a prime sur les prétentions ou sur les fantaisies de la HALDE, qui n'est jamais que l'émanation d'un service politique. Donc, je pense qu'il est possible d'engager une action en justice contre la RATP, qui, par fourniture de moyens, permet de mettre à la portée des enfants des images de caractère pornographique. Après, si la RATP veut se retourner contre la HALDE en disant « Vous nous avez contraints à le faire », c'est votre responsabilité, c'est l'affaire de la RATP. Mais l'image, elle est sur les couloirs de la RATP et ça constitue une agression qui est réprimée très sévèrement par la législation. Très sévèrement, puisque ce sont des années de prison.
Oui, alors je voudrais dire un mot ici de la DRIF. Et puis un mot, en quelque sorte, un appel aux auditeurs. Beaucoup réagissent, comme nous, devant de telles abominations. Mais ensuite, lorsque nous menons nos combats, nous sommes peu, nous sommes très peu. Alors, la DRIF a besoin d'adhérents. Nous avons remporté des victoires. Nous aimerions bien en remporter d'autres. Et on ne remporte pas de victoires sans pouvoir mettre des avocats sur ces affaires-là, sans pouvoir faire des manifestations. Le premier acte militant, c'est donc l'adhésion à ce syndicat des Français que constitue la DRIF, 70 boulevard Saint-Germain. L'adhésion est d'ailleurs très peu coûteuse, parce que nous savons que ce sont les mêmes qui mènent plusieurs combats, c'est 10 euros. Mais ensuite, il faut aller plus loin. Et il faut que les appels aux manifestations soient entendus, parce que il y a là aussi le phénomène de ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui va devenir de moins en moins majoritaire. Ce qu'on est en train de décrire, c'est un processus d'inversion radicale. Aujourd'hui, ça ne sont plus les pervers sexuels qui sont marginalisés, ça va être les gens normaux. Face à cette réaction, il ne suffit pas d'écouter sa radio, même si c'est très bien, et si je remercie les auditeurs de Radio Courtois. Et il faut que ceci aille plus loin. Et je le dis aussi parce que on croit que la seule action, c'est la campagne pour les élections politiques. Alors il faut des militants pour mener les bons combats électoraux, mais les élections, c'est tous les 2, 3, 5 ans selon les élections. Mais c'est entre-temps que tout se passe. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut combiner cette action d'information, soutenir nos journaux présents, le Libre Journal, Reconquête, mais National Hebdo, etc., etc. Mais il faut surtout se mobiliser. Voilà ce que je voulais dire. On reprend.
Alors, sur les questions éthiques, malheureusement, et l'actualité est très forte. Alors, le DRIS a publié son bulletin annuel sur les chiffres de l'avortement. Alors, le DRIS, c'est quoi? C'est la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, qui dépend des ministères de la Cohésion sociale et de la Santé. Alors, d'après les chiffres qui nous ont sortis, l'avortement aurait diminué de 1,6%. Bon. Alors, Yves Daoudal, peut-être que vous pouvez nous commenter ce chiffre.
Oui, c'est très intéressant parce que la DRES, hein, que, je ne sais pas comment on dit, enfin, cette direction de la recherche qui est des études qui dépend de deux ministères, publie effectivement tous les ans un bulletin sur les chiffres de l'avortement. Un bulletin de 8 pages. Cela dit, il n'y a aucune statistique de l'avortement dans ce bulletin. Et les chiffres qu'ils donnent ne sont pas les chiffres de l'année dernière, mais les chiffres de l'année précédente. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a, ce sont les chiffres que la DRES vient de donner, ce sont les chiffres de 2003. Et en plus, ce ne sont pas des chiffres, de vrais chiffres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des évaluations. Parce qu'on ne sait toujours pas combien il y a d'avortements en France. Et régulièrement, les chercheurs de l'INED et de l'INSERM se plaignent justement de cet état de fait, parce qu'ils ne peuvent même pas, eux, faire des études de population, c'est leur travail, parce qu'on ne leur donne pas de statistiques de l'avortement. Il n'y a aucun chiffre. Je dis bien des avortements qui sont faits légalement dans les avortoirs agréés par la République. Et du reste, sur les 8 pages du bulletin annuel de la DRES, c'est tout à fait intéressant. Il y a une page entière, la première page entière est consacrée, ou la page 2, puisque sur la première page, il n'y a quasiment rien. C'est la page 2 est entièrement consacrée à expliquer justement qu'ils ne peuvent pas donner de chiffres, parce qu'ils ont 3 sources différentes qui ne se recoupent pas. Alors ils procèdent à des évaluations comme font les instituts de sondage, et après les évaluations ils procèdent à des redressements exactement comme les instituts de sondage, et ils redressent y compris les chiffres de l'année précédente, c'est-à-dire de 2002 là. alors que ces chiffres étaient considérés comme des évaluations fiables. Il nous dit que c'est des évaluations fiables, mais il redresse quand même les chiffres de l'année précédente. Donc l'adresse nous dit que pour 2003, donc, le nombre d'avortements peut être évalué, c'est une citation, peut être évalué provisoirement, avant le redressement qui aura lieu l'année prochaine sur les chiffres de l'année précédente, à 203 300. 203 300, en effet, ça constitue une baisse de 1,6% par rapport à l'évaluation des chiffres rectifiés de 2002. Et en fait, tout ça n'a aucun sens, naturellement, vous comprenez bien. La seule évolution notable qu'on voit dans les chiffres publiés par l'adresse d'année en année, c'est la hausse continue des avortements de jeunes filles mineures. Le taux d'avortement de jeunes filles mineures est désormais estimé, évidemment ce sont toujours des estimations aussi, à 9,6 pour 1000. 9,6 pour 1000, c'est quelque chose d'énorme, parce que selon une autre évaluation d'un autre organisme officiel qui datait de 2000, en 2000 cet autre organisme disait que moins de la moitié des moins de 18 ans ont eu un rapport sexuel. Donc sur moins de la moitié des jeunes filles, 9,6 pour 1000 comme taux d'avortement, c'est quelque chose d'énorme. Alors évidemment, il ne sert à rien de faire un commentaire précis de chiffres qui sont totalement imprécis. Si on constate la tendance des chiffres donnés année par année, année après année par l'adresse, on constate que le nombre d'avortements en fait augmente, puisque il est désormais officiellement au-dessus de 200 000 depuis 5 ans dans ses bulletins, alors qu'il était en dessous de 200 000 entre 1992 et 1999. L'adresse, d'autre part, signale cette année qu'elle ne prend pas en compte la pilule du lendemain. Et elle signale que la vente de la pilule du lendemain est en très forte hausse, parce qu'elle est en très forte hausse, elle est considérée comme une contraception d'urgence, alors qu'il s'agit techniquement d'un abortif. Et l'adresse ajoute aussi que la faculté récemment donnée aux médecins de ville de pratiquer l'avortement médicamenteux, ce qui est tout récent, je crois que c'est cette année ou l'année dernière,
oui, c'est cette année.
Ça entre pas encore en compte dans leurs chiffres ou dans leurs estimations. Mais il signale d'ores et déjà que cette faculté donnée aux médecins de ville de pratiquer l'avortement médicamenteux va rendre leurs évaluations encore plus aléatoires que ce que c'était déjà.
Donc en fait, si je vous suis bien, la pilule du lendemain et la pilule avortive ne sont pas comptabilisées dans les 200 000...
Non. D'accord. Non, ça c'est pas considéré comme avortement, c'est considéré comme une contraception d'urgence, officiellement une contraception d'urgence.
Dans un pays qui vieillit, on nous explique sa longueur de journée, c'est pas étonnant que le nombre des avortements diminue, enfin ça me paraît absolument évident. Si la population vieillit, il y a de moins en moins d'avortements.
Pas forcément.
Mais il diminue pas vraiment. Hein.
Il diminue pas.
Non, malheureusement.
Les chiffres restent à peu près
égaux. Alors, c'est qu'ils augmentent.
Et sur un long terme, ils augmentent plutôt.
C'est évident.
Et ils augmentent à cause ce que j'ai dit, des jeunes filles, comme ils le remarquent. C'est la hausse continue des avortements.
C'est énorme.
Je crois, Jeanne, que vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, à propos des jeunes filles qui avortent, il se trouve que c'est précisément dans les pays où il y a le plus d'endoctrinement sexuel, d'informations sexuelles dans les écoles auprès des mineurs, c'est dans ces pays-là qu'on déplore le plus d'avortements chez les jeunes filles. C'est le cas au Royaume-Uni et spécialement en Écosse, où les programmes d'information sexuelle sont terriblement explicites, et la France n'est pas à la traîne là-dessus, et ça n'est donc pas vraiment étonnant. Il y a, je crois, un pays où cette statistique ne s'avère pas, c'est les Pays-Bas, mais c'est aussi le pays où on enregistre le plus de stérilisations volontaires. Donc là, il n'y a plus besoin d'avortement par définition. Et une autre chose à ajouter à ce que vient de dire Yves Daoudal, et qui est terrible parce que ça désigne un génocide, rien de plus et rien de moins, eh bien c'est le fait qu'il y a un certain nombre d'IVG, comme ils disent, qui ne sont pas comptabilisés comme tels parce que c'est mal remboursé, enfin non, c'est bien remboursé, c'est plutôt très mal payé au médecin, et le médecin a tout à fait intérêt à donner à cet acte une autre nomenclature, comme ils disent. Et ça, c'est une donnée qui est prise en compte très sérieusement par les instituts d'évaluation. Je me rappelle qu'on donnait à une époque, ça devait être à la fin des années 90, 180 000 avortements par an, et puis on ajoutait 30 ou 40 000 dont on pensait qu'ils étaient cachés dans les statistiques parce qu'ils passaient sous une autre appellation qui permettait une meilleure rémunération du médecin.
Oui, je reçois d'un auditeur une information intéressante sur Radio Notre-Dame, que l'on peut écouter aussi. Il y aura Anne-Marie Hydrac, patronne de la RATP, samedi prochain, dans le cadre des interviews des patrons chrétiens. On espère que Radio Notre-Dame, dit cet auditeur ou auditrice, je ne sais, va lui poser la question sur les affiches. Mais je donne ce soir une directive. C'est d'écouter cette émission, si vous le pouvez, hein, sur Radio Notre-Dame, Anne-Marie Hydrac, donc samedi prochain. Mais on ne me donne pas l'heure. Alors, si vous pouvez vous renseigner, parce que nous réagirons en fonction des propos qui seront tenus. Il va de soi que là, Anne-Marie Hydrac a une responsabilité morale en tant que patron de la RATP. Elle parle à Radio Notre-Dame. On espère qu'elle sera dans la cohérence de la foi qu'elle affirme.
Alors, toutes ces affaires nous montrent que la famille est menacée dans notre pays. Et pourtant, nous lisons dans le Famille chrétienne de mi-septembre un article de Marie-Joëlle Guillaume qui voit dans la politique familiale de Monsieur de Villepin une hirondelle, je cite, annonciatrice de printemps. Alors, Jeanne Smith, est-ce que Marie-Joëlle Guillaume n'aurait pas des lunettes roses?
Alors, ça m'étonne beaucoup d'elle, parce que c'est une personne que j'apprécie et dont les éditoriaux sont toujours frappés au coin du bon sens et puis de la profondeur. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et je ne sais pas pourquoi elle est allée dire que la nouvelle allocation prévue pour le troisième enfant, un an de 750 euros par mois pour aider les parents à avoir un peu plus d'enfants, pourquoi c'était l'hirondelle annonciatrice du printemps? Car en réalité, c'est tout le contraire. Il y a une espèce de mythe aujourd'hui qui veut que les pays européens où les femmes travaillent le plus soient ceux où l'indice de fécondité est le meilleur. Et donc, disent tous les instituts européens et autres qui commencent à s'inquiéter un petit peu de démographie, donc il faut mettre les femmes au travail, comme ça elles auront plus d'enfants. Ce qui est peut-être vrai, en ce sens que dans les ménages où les deux parents travaillent, il y a un peu plus de moyens, donc plus de facilité à accueillir dignement une nouvelle vie. Et puis, il y a aussi le fait que dans les pays où les femmes ne travaillent pas, les salaires sont insuffisants, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne ou du Portugal, là, l'indice de fécondité a baissé considérablement. Seulement, on sait très bien que lorsque les femmes travaillent, elles ne peuvent guère aller au-delà de 3 enfants. Quand on en a 4, comme l'observe Rémi Fontaine dans Présent du 5 octobre, cela représente 7 heures de travail par jour tout de même. Donc, le parti pris européen aujourd'hui est de dire qu'il faut que de plus en plus de femmes travaillent, donc on va au maximum favoriser l'allocation à la famille où les deux père et mère travaillent, et comme ça nous allons obtenir quelques enfants de plus. C'est une politique qui est radicalement injuste pour les familles nombreuses qui, elles, vivent avec un seul salaire et où la femme n'a pas les moyens de travailler parce qu'elle n'en a tout simplement pas le temps. Et ce sont ces familles-là qui sont les grandes, grandes oubliées de la soi-disant politique familiale de Dominique de Villepin, et également, et je le regrette, de Famille chrétienne nouvelle formule. Je ne sais pas où est en train d'aller Famille chrétienne. Ce que je sais, c'est que la famille n'est aujourd'hui défendu ni par les associations familiales, celles qui sont subventionnées par l'État et donc visées et agréées par l'État, ni par ces grands hebdomadaires chrétiens que nous pouvons apprécier quelquefois et qui là sont largement en deçà de leur mission. Notre mission à nous, je pense, est d'expliquer que la famille nombreuse apporte une richesse inouïe à l'État et aussi aux familles qui, par leur volonté ou non, n'ont pas d'enfants et qui demain auront des retraites confortables qu'elles auront pu compléter avec leur épargne, tandis que les familles nombreuses n'ont pas les moyens de faire de l'épargne et se trouvent terriblement victimisées, comme disent les Anglais, par ces politiques familiales.
Alors, heureusement que dans ce tableau, certains luttent toujours. Je pense à Benoît XVI, puisqu'il y a eu une conférence épiscopale ces dernières semaines. Et Benoît XVI a donc été l'objet d'attaques réitérées dans nombreux journaux. Alors, c'est le cas, par exemple, du Monde, du 16 et du 17 octobre, où on a lu un article de Michel Masson, un professeur émérite d'hébreu à l'Université de Paris, qui condamne l'attitude de Benoît XVI, puisque celui-ci, ô horreur, veut interdire la prêtrise aux homosexuels. Donc nous avons lu dans Le Monde du 24 octobre aussi, sous la plume de Henri Tinck, que l'attitude de Benoît XVI montrait la montée du conservatisme, et notamment dans les 50 propositions finales. Alors, Jeanne, peut-être toujours vous, qu'est-ce que vous pensez de cet article de Henri Tinck qui attaque Benoît XVI?
Alors c'est assez étonnant. On découvre toujours la Lune dans les journaux français. Un Henri Tinck qui est quand même supposé être vaticaniste un peu, enfin qui connaît les questions religieuses un peu, il vient nous expliquer avec des trémolos dans la voix ou presque que l'avenir du célibat des prêtres est aujourd'hui un sujet non négociable et que c'est terrible parce que finalement l'Église est en manque de prêtres. Alors je ne sais pas à quoi jouent ces braves journalistes. Je crois que ils feignent toujours l'étonnement quand l'Église rappelle sa discipline de toujours. En tout cas en Occident, quand l'Église rappelle sa prudence de toujours vis-à-vis des homosexuels.
Oui, je crois qu'il faut quand même dire, Jeanne, que oui. M. Tinck n'était évidemment pas un vaticaniste, sinon, dans le style d'André Gide, les caves du Vatican, il est surtout un anti-vaticaniste,
comme vous dites,
au
bien
sens
sûr, Bernard,
anti-catholique bien sûr. Du mot. J'ai eu avec ce personnage des communications que je n'évoquerai pas ici. Il est en fait un anti-catholique fondamental. Il bénéficie d'une chronique dans Le Monde qui est dans le droit fil de celle d'Henri Fesquet naguère. Il ne faut donc pas s'étonner et on ne peut que se réjouir quand Henri Tinck dit que Benoît XVI c'est pas bon. Ben nous on peut être sûr que Benoît XVI c'est bon. Voilà, chers auditeurs, ce qu'il faut savoir. Je le dis quelquefois à certains de mes amis catholiques, mais lisez donc, et on le fait pour vous, voyez, parce qu'il faut quand même pas acheter Le Monde, mais lisez donc La Presse Ennemie et vous aurez une idée. Voilà, j'espère que certains me comprennent.
Oui, Henri Tinck en l'occurrence agit comme un propagandiste tout simplement, rien de plus.
Un propagandiste anti-catholique, et la haine contre Benoît XVI déferle aujourd'hui, cela ne peut que nous réjouir. Hein.
Alors, s'il est vrai que l'Église est fort attaquée dans nos journaux, en revanche, il y a une complaisance affichée envers l'islam. Alors, tout le monde le sait, puisque c'est de notoriété publique, le ramadan a commencé. Alors, l'islam est un véritable phénomène de mode. Alors, on lit par exemple dans le Figaro du mercredi 26 octobre, tout un article qui fait pratiquement la page sur ces champions français qui sont au régime sec, les pauvres, parce que ils suivent le ramadan. Il y a donc beaucoup d'articles qui parlent de l'islam, des journaux, des hors-séries. Alors il y a le point, on peut voir dans tous les kiosques, surtout les kiosques à journaux, cette affiche avec un islamiste barbu. Donc je m'adresse à vous, Bernard, puisque vous venez de terminer la rédaction d'un livre sur l'islam qui s'appelle, je crois, « L'islam sans complaisance ». Je voudrais que vous puissiez nous commenter un peu ces dossiers. Alors on va commencer par le dossier du Point qui débute par une mise en garde. Alors d'après l'auteur de cette mise en garde, Pierre Bellon, il faudrait éviter les amalgames dangereux et distinguer, je cite, ce qui relève d'une légitime foi personnelle et ce qui appartient au registre de l'agitation politico-religieuse. Il ajoute, le retour vers une interprétation littérale du Coran constitue une tentative désespérée de reconstruction identitaire.
En termes choisis, ces choses-là sont dites, chère Cécile. Oui, alors là, c'est ce que l'on entend, c'est ce que l'on lit chez un certain nombre de gens qui ne connaissent strictement rien, je dois le dire, à la religion, la seconde religion de notre pays aujourd'hui, l'islam, qui ne prennent pas la précaution de lire les revues musulmanes, les librairies musulmanes, et donc dire que le Coran ne peut relever d'une comment avez-vous dit?
Alors en fait ils disent l'agitation politico-religieuse qui serait opposée à la foi personnelle.
Oui, alors d'abord, s'il y a bien une religion qui met en avant une foi collective, ça n'est le fondement même. Aucun musulman qui m'écoute ne dira le contraire. Là, les piliers de l'islam, en dehors des cinq piliers, hein, dont le jeûne, l'aumône, etc. En dehors de cela, les piliers s'appellent l'Oumma, la communauté, la meilleure communauté que Dieu ait établie pour les hommes. La foi dans l'islam n'est pas personnelle, c'est une foi par excellence collective. Ensuite, l'interprétation du Coran. Mais je rêve, tous les textes des docteurs de l'islam, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, toutes les revues de l'islam, dit modéré, j'y reviendrai tout à l'heure, disent que le Coran ne doit se prendre qu'au pied de la lettre. Aucun musulman ne va parler de l'esprit du Coran. Ça existe chez les catholiques qui parlent de l'esprit du concile, mais chez les musulmans, l'esprit du Coran, Kézako, comme on dirait chez moi à Toulouse. Enfin, il n'y a pas d'esprit du Coran, il y a la lettre du Coran. Alors, certes, pourquoi cela? Parce que tous les musulmans diront le Coran, ils le réciteront ensemble, c'est la parole d'Allah, elle est incréée, elle est gardée au paradis sur des tablettes par des anges. Donc, il n'y a pas à en changer un mot, une virgule. Ceci, c'est dans la voie de l'islam, qui n'est pas une revue, comme ils disent, islamistes, et je reviendrai sur cela. Donc, c'est une monstruosité que de dire une telle chose, parce que le Coran, pour le musulman, c'est j'allais dire, c'est beaucoup plus que parole d'évangile pour un catholique.
À propos de... Vous avez commencé en évoquant la partie sportive, la question sportive, le malheur des sportifs qui sont obligés de suivre le ramadan. Je voudrais simplement citer Al-Watan al-Arabi, qui publie une fatwa édictée par le cheikh Abdallah al-Nadji, qui consiste en des conseils pour la pratique du football, d'un football islamique ou musulman. Et alors, c'est au nom de Dieu, le miséricordieux, le bienveillant, tu joueras au football sans tracer les lignes qui délimitent le terrain, parce que ce sont des inventions des hérétiques. Efface ces lignes avant de jouer. Tu n'opposeras que deux poteaux et non pas un troisième en travers, ce qui rappellerait le signe des infidèles. Tu n'utiliseras pas les mots et la langue des hérétiques et des polythéistes comme penalty, corner ou goal. Ces mots ne doivent pas être prononcés. Quiconque les prononce sera réprimandé et chassé du jeu. Il sera publiquement accusé.
Ah ben, ça nous donnera des...
Et ainsi de suite. Et alors, la dernière, quand même, que je voudrais vous dire, c'est, tu ne laisseras pas les jeunes assister en spectateur aux rencontres de football. Tu les inviteras à entrer sur le terrain pour le pratiquer aussi. Et tu leur diras, va prêcher la volonté d'Allah et traquer les conduites immorales dans les rues. Et laisse-nous entraîner notre forme physique, car le football musulman consiste à s'entraîner pour la djihad.
Oui. Vous me faites rire, Serge, parce que c'est quand on écoute ce genre de choses, on ne peut que sourire. Je reviens à...
En profiter avant d'avoir l'occasion de faire un sourire kabyle.
Oui, ça c'est sûr. Je reviens à vous, Bernard. Donc, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que islam et islamisme, c'est la même chose.
Oui. Alors, je crois que il faut ici préciser quelques notions de vocabulaire. Juste à une époque très récente, l'islam et l'islamisme étaient deux mots que l'on utilisait analogiquement à chrétienté et christianisme. L'islam définissait l'ensemble géopolitico-idéologico-religieux, hein, donc éclairé, baigné par le fait musulman. Et l'islamisme, c'était la doctrine. C'était tout simplement la doctrine, si bien que dans les dictionnaires, juste à une époque récente, je l'ai vérifié, hein, les dictionnaires d'histoire, de philosophie, de religion, l'islamisme, c'est tout simplement la religion musulmane dans son application. Alors, depuis, en Occident, parce que c'est un distinguo occidental, on a distingué l'islam dit modéré de l'islamisme. Lorsqu'on lit Le Point, le dossier que Le Point consacre, sans grande originalité d'ailleurs, aujourd'hui aux islamistes, on ne peut que constater que ce qu'on appelle l'islamisme, bah c'est le pays réel musulman. La réalité, c'est qu'il y a évidemment un distinguo. Il y a un islam qui veut appliquer le Coran, veut appliquer la charia, et il y a un islam qui, pour appliquer le Coran et la charia, va jusqu'au terrorisme en brandissant les formes les plus dures du djihad. Voilà très exactement ce dont il s'agit. Alors, de même pour le mot intégriste, où il y a aussi une incroyable subversion. On entend dire, par exemple, on parlera tout à l'heure de la Pologne, je pense, que les catholiques polonais qui ont remporté les élections en Pologne sont des intégristes ou des fondamentalistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un musulman intégriste? Un musulman intégriste, selon la presse, c'est Ben Laden. Donc, c'est donc un destructeur de World Trade Center. Ce sont ceux qui ont assassiné assassiner les moines de Tibérine. Tandis qu'un musulman qui affirme l'Oumma, la charia, le djihad, un musulman qui fait le ramadan, un musulman qui veut imposer dans tout domaine le mode de vie musulman, on dit que c'est un bon musulman. Alors, en revanche, un chrétien, qu'il soit catholique ou protestant ou orthodoxe, qui va se contenter d'aller à la messe, aux offices, qui va faire baptiser ses enfants, qui va communier, on va dire que c'est un intégriste, vous vous rendez compte, il trouve bon les enseignements de Benoît XVI. Il y a là une incroyable subversion qu'il faut dénoncer, l'utilisation du même mot pour recouvrir des réalités bien différentes.
Alors, vous avez aussi, Bernard, utilisé le mot djihad. Donc, c'est un mot important dans le hors-série de Télérama qui est consacré à l'islam. Le hors-série s'appelle « Comprendre l'islam si loin, si proche ». Il y a un entretien accordé à Jacqueline Chabi, nous ne savons pas d'ailleurs qui c'est, et cette dame affirme que le djihad n'est pas une notion coranique. Il s'agirait, selon elle, seulement d'une mobilisation, pas précisément de leurs armes, une sorte d'appel au volontariat. Donc, elle dit un peu plus loin que le djihad serait devenu guerre sainte à cause de l'agression des croisés. Alors, est-ce que cela est vrai ?
Oui, je crois que cette dame a dû étudier le Coran sur une île déserte, quelque part vers Honolulu, un Coran que l'aurait apporté une hirondelle, elle aurait eu une révélation d'un Coran alternatif qui n'est en tout cas pas celui du prophète. Parce que je voudrais rappeler à cette dame que moi j'ai étudié le Coran dans la traduction estampillée par l'université Al-Azhar à la prestigieuse édition La Pléiade, que dans ce Coran, selon le père Moussali, à qui je voudrais rendre hommage ce soir, le père Moussali a été conférencier du Centre Charlier, il était un des plus grands connaisseurs de la langue arabe, puisqu'il a enseigné dans l'Algérie indépendante pendant 20 ans à Alger, à l'université d'Alger. C'est dire que ils n'étaient pas très contents, mais c'était quand même lui qui était comme un trésor pour la langue arabe. Alors selon le père Moussali, il y a 700 occurrences de violence, de haine, d'appel au djihad dans le Coran. Mais je n'ai pas amené le Coran ici parce que je pourrais passer la nuit entière, encore qu'on est en période de Ramadan, à dire tout de même la façon dont on doit traiter les incrédules. Alors il faut le rappeler ici, et là aussi, aucun musulman, je parle avec des musulmans, et si je ne suis pas pour l'islam, j'ai le plus grand respect pour des musulmans que je peux rencontrer. Alors il faut rappeler les choses très simplement. Dans le Coran, on a là d'abord la révélation d'Allah, mais enfin c'est Allah, comme disait Aïcha, la femme préférée du prophète, est toujours très, très prompte à appuyer tout ce que fait le prophète. Alors, qu'est-ce que va faire le prophète et qu'est-ce que lui commande le Coran ? D'abord, pour ceux qui feraient profession d'athéisme, la mort. Ça est très clair. Ensuite, il y a les gens dits du livre, les juifs et les chrétiens, et on passera pour mémoire, mais pour être Elsa, les zoroastriens, c'est-à-dire les dernières bribes de l'ancienne religion de la Perse. Les gens du livre, comment doit-on les traiter ? Eh bien, c'est la grande historienne israélienne Badieor qui a fait un magnifique livre sur le sujet. Ben, ils ont le choix entre djihad et dhimmitude. Alors, le djihad, c'est la guerre. Et puis ensuite, la guerre étant victorieuse, eh ben le calife, c'est-à-dire le successeur de Mahomet, celui qui détient le pouvoir, va avoir le choix. Soit il tue, comme le prophète l'a fait souvent, je vais quand même en dire un mot, soit il offre un statut de dhimmi, c'est-à-dire de survie, de citoyen toléré, protégé. Alors ça, c'est pour les gens du livre, encore une fois. Alors, le prophète, qu'a-t-il fait ? N'oublions pas que les musulmans se réfèrent à deux livres sacrés. Le Coran, bien sûr, qui veut dire récitation, c'est ce que Allah lui a transmis, et puis les hadiths. Les hadiths, ce sont les anecdotes, les faits et gestes du prophète. Et ils ont dans l'islam, il suffit d'aller dans une librairie musulmane, donc ils ont une importance aussi grande que le Coran. Alors, on rappelle la vie du prophète. Cette dame dit qu'il n'y a pas de djihad dans le Coran ou dans la vie du prophète, mais enfin. D'abord, dans le Coran, toute la sourate 9 est une sourate d'appel au combat, d'appel à égorger les ennemis. Tout cela sera publié dans mon livre. On peut d'ores et déjà le commander. Ça sera en souscription auprès du Centre Charlier pour 20 euros. Dans ce livre, je rappelle, donc, à la fois les sourates du Coran, les principales, parce que il y aurait le Coran, c'est quand même un gros livre, et ça occupe une très grande partie de ce gros livre. Mais enfin, la vie du prophète lui-même. C'est par exemple, lorsqu'il va à Médine régler le compte des tribus juives qui ne veulent pas passer à l'islam. Parce que, en fait, le prophète, c'est un autre débat, il est une sorte de réformateur du judaïsme. Qu'on me pardonne cette analogie, mais le prophète Mahomet, il est une sorte de Luther. Il croit que les juifs vont se rallier à lui, parce que finalement, que fait-il ? Une réforme du judaïsme. Et tous les juifs ne le suivent pas. Il y en a beaucoup qui vont le suivre aussi. Mais ceux qui ne le suivent pas, il va leur régler le compte, comme on dirait, en vocabulaire pied noir.
Quand vous dites régler les comptes,
oui, alors, physiquement, comment cela se passe-t-il ? Eh bien, par exemple, la tribu des Banu Koreish, eh bien, il va donc ordonner que les hommes soient égorgés. C'est d'ailleurs la célèbre scène où on fait creuser sur la place du marché de Médine des fosses. Les hommes sont amenés là et ils sont environ, selon la Sira, c'est de la vie du prophète, 900. Et là, ça va durer toute une journée jusqu'au soir. On égorge les hommes, on fait rouler leur tête et leur corps dans les fosses. Les femmes et les enfants vont être distribués, et c'est là que Mahomet va, par exemple, prendre une jeune femme qui a vu ses frères donc rouler dans la fosse, son père aussi, et ça va être une des épouses du prophète, qui est d'ailleurs très très pressée de la consommer, puisqu'il fait ça en chemin. C'est la vie du prophète. Je me base là sur des textes musulmans, je le précise encore une fois. Alors, il n'y a pas le djihad, il y a même... Alors, on pourrait... Je ne m'arrêterai pas sur le sujet. Il va de soi que le djihad, et Serge a cité tout à l'heure un texte, mais j'en ai de plus hautes autorités, j'en publie un dans mon livre, qui vient des plus hautes autorités pakistanaises, non talibans. Alors il y a eu, il est vrai, cette dame, si elle a un tant soit peu de culture coranique et musulmane, et elle n'en a pas. Je pourrais la défendre en disant, oh oui, il y a eu un effort, une tentative, dans l'histoire de l'islam, pour transformer la guerre sainte en guerre intérieure. Ça a été celle des soufistes, qui ont été abominablement persécutés. Il n'en reste plus que comme lointain successeur folklorique les derviches tourneurs. Mais leur maître à penser était un homme d'ailleurs très intéressant qui s'appelait El Halaj. Et comment a-t-on traité El Halaj qui avait demandé que la guerre sainte soit une guerre intérieure? On l'a démembré morceau par morceau. Près du brasier, on jetait ses membres. Et ensuite, alors qu'il vivait encore, on l'a précipité dans le brasier. Ça a été la dernière fois que l'on a donc voulu cette interprétation du djihad. En revanche aujourd'hui, si l'on prend une librairie musulmane, encore une fois non qualifiée d'islamiste, on va y trouver les livres d'Ibn Taymiyyah. Et je rappelle que Ibn Taymiyyah, ce grand penseur musulman, qui est le maître à penser des frères musulmans, est donc de Monsieur Tariq et Dani Ramadan. Cet Ibn Taymiyyah a écrit une plaquette qui s'appelle « Le statut des moines ». Le statut des moines était fait pour dire, oui, selon le Coran, il faut tuer les moines. En effet, dans le Coran, il y a des versets qui disent qu'il faut respecter les prêtres et les moines. En quelque sorte, ceux-là, ils sont gentils. Mais il y en a d'autres où on dit le contraire. Alors au passage, dans le Coran, c'est quand même extraordinaire, Dieu change dans le Coran. Hein, c'est la parole d'Allah incréée, mais les docteurs de la foi musulmans distinguent les versets abrogé et les versets abrogeants.
Alors Bernard, peut-être pour qu'on comprenne mieux, c'est important ce que vous dites. Donc il y a tout et son contraire dans le Coran, et donc les défenseurs de l'islam nous disent, mais oui, il existe un islam modéré puisqu'il y a des sourates
modérées. Je termine sur Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est donc cet homme dont on peut trouver des ouvrages dans toutes les librairies islamiques de Paris. Et le statut des moines, il a été traduit par un homme qui s'est signé Nasreddin le Batelier. Et il faut voir ce qui s'est passé lorsque au Parlement européen, je faisais des choses au Parlement européen à cette époque-là, j'y suis plus, hein, j'ai brandi cet ouvrage-là et j'ai dévoilé qui était le traducteur, qui était le commentateur, celui qui a prouvé donc, au nom d'Ibn Taymiyyah, le massacre des moines de Tibérine. C'était monsieur Jean Michaud, professeur à l'Université catholique de Louvain. Je vous prie de croire que là, plus une mouche n'a volé dans le Parlement européen. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui me demanderaient comment j'avais su cela, ben je dirais que c'est mon métier de militant. Mais en tout cas, Jean Michaud, ensuite, a eu une bonne indemnité. Vous savez, imaginez, enfin, un seul instant, un universitaire français qui ferait l'apologie du meurtre, par exemple, d'un attentat en Israël. Hein, imaginez un universitaire français faisant l'apologie d'un attentat terroriste en Israël. Que va-t-il se passer pour lui? Je ne vais pas vous infliger la réponse, vous pouvez deviner. Eh bien, l'universitaire français Jean Michaud, à l'Université catholique de Louvain, qui publie une justification des moines de Tibérine, il a reçu 800 000 francs belges d'indemnité, et nous le retrouvons aujourd'hui professeur à Oxford. Voilà donc comment on traite les affaires selon que vous soyez puissant ou misérable. Et cette dame qui dit que le djihad n'existerait pas, mais enfin, on se pince, et je pense que dans mon livre, on trouvera toute l'argumentation qu'il faut pour réfuter de telles plaisanteries.
Je voudrais revenir deux secondes, Bernard, sur le soufisme, parce que lorsqu'on fait des dossiers sur l'islam, on nous présente toujours largement le soufisme comme une partie importante de l'islam. Et donc vous nous dites, cela c'est une toute petite partie et...
Que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte où l'on massacre des chrétiens en ce moment même où nous parlons, hein, même le monde ne peut pas taire cela, le soufisme n'existe pas, n'existe plus. Il n'y en a que quelques ersatz, en Turquie, chez les Alevis, mais on rentrerait dans des choses qui sont tout à fait, qui ne sont pas droitement dans notre sujet, parce que Victoria est en train de me dire qu'il faudrait peut-être une pause pour répondre à des messages d'auditeurs.
Oui, enfin il y a des commentaires aussi. Alors de nombreux auditeurs vous signalent que les affiches homo dans le métro sont souvent déchirées et très très lacérées.
Très bien.
Je trouve ça très intéressant.
Il faut déchirer ces affiches, il faut les lacérer, il faut se munir de feutres et il faut écrire ce que votre imagination vous dictera.
Mais un auditeur nous signale qu'il n'y a pas que sur les affiches que la communauté gay fait sa pub dans le feuilleton Plus belle la vie, tous les soirs sur France 3, à l'heure du dîner, il y a des allusions tout à fait claires sur le sujet. Hier, un prêtre se défroquait pour épouser une femme et deux hommes cherchaient le moyen de se faire faire un enfant par une femme.
Très bien. Je vous coupe, Victoria, pour répondre à ces auditeurs. Vous voyez que je reçois là une information. L'abbé Pierre parle avec franchise de sexualité et d'homoparentalité. Il n'en finit pas, le cher abbé Pierre. Hein, il devrait. Donc il fait quelques révélations et il parle du fait qu'il a contribué à fonder l'association d'homosexuels chrétienne David et Jonathan. Bon, l'abbé Pierre, qui est perçu comme une... comme un petit frère des pauvres, c'est donc la réalité de l'abbé Pierre. C'est qu'il patronne cette association que des fenêtres du Saint-Charlier, j'ai vu défiler dans la Gay Pride, avec des petits-enfants sous des rideaux langoureux. Je dois dire que l'abbé Pierre, je le prédis ici, il a du souci à se faire quand il va passer de l'autre côté. Il y met le temps, c'est vrai. Mais il y a dans l'évangile, quelque chose qui évoque le sort qui va être fait à ceux qui scandalisent les petits-enfants. Je pense que l'abbé Pierre va avoir vraiment des comptes à rendre.
Alors un autre exemple de ces publicités, une publicité SFR montre quatre jeunes gens nus jusqu'à la ceinture, d'un style sans ambiguïté. L'un d'eux, le visage masqué, est évidemment le client de SFR et le texte de la publicité est « Vous pouvez choisir trois numéros, n'importe lesquels. » Le message est très clair, un détail intéressant. Je suis à peu près sûr au moins qu'un des trois favoris du monsieur, qui a d'ailleurs une tête d'imbécile parfait, est mineur. Un autre auditeur nous dit « Pouvez-vous parler de l'explosion des anomalies sexuelles des enfants aux USA ?» Avec puberté des fillettes à 8 ans, ce serait trop
long. Ça serait très long et je pense que là, des amis comme le professeur Coraz en parlerait ou d'autres que nous connaissons. Ce n'est pas ce soir que nous pouvons traiter
cela. C'est un sujet qui a été traité dans une émission récente sur Radio Courtoisie et qui est attribué notamment à la question d'alimentation, beaucoup, beaucoup.
Oui. Pouvez-vous nous parler de l'article du Figaro de ce jour où l'on traite du sujet suivant, les laïcs et les religieux qui s'affrontent dans les universités turques?
Oui, alors c'est le débat, je vais très vite, on sait très bien, c'est important, car on sait très bien qu'en Turquie, il y a effectivement deux tendances qui se heurtent, la tendance kémaliste qui voulait une certaine laïcisation, je dis bien une certaine, il faudra introduire beaucoup de nuances, j'ai pas le temps de traiter ce soir, laïcisation de la société et des religieux, mais aujourd'hui le pays réel turc est islamiste, les universités sont conquises, d'ailleurs cet article ne le nie pas, si bien que d'évidence, la Turquie qui doit rentrer dans l'Europe pour M. Chirac, c'est une Turquie qui n'est plus le kémaliste, et je ne suis pas admirateur de Kemal, c'est un autre dossier, mais enfin c'est une Turquie qui est profondément islamiste aujourd'hui.
Alors, un auditeur a réagi parce que vous avez dit tout à l'heure si l'Église est fort attaquée dans nos journaux où il y a une complaisance pour l'islam. Bien entendu, il ne s'agit pas de nos journaux, mais de la grande presse.
Ah oui, oui. Non, mais j'ai parlé... C'est Cécile que je défends. Complaisance pour l'islam. Par exemple, écoutez, là j'ai un petit livre qui est utilisé dans l'enseignement primaire, Mahomet et l'islam. Alors, tout chez les Arabes, c'est du racisme à rebours, hein, parce que nous sommes, nous, contre tous les racismes, et merveilleux. Ils sont les meilleurs cavaliers, ils sont les meilleurs mathématiciens, ils ont des bibliothèques splendides, on donne ça aux petits-enfants, en quelque sorte, ils sont les alpha plus de la civilisation, et nous, nous sommes les bêta moins. Je voudrais rappeler ici, simplement, que, par exemple, à l'Institut du Monde Arabe, il y a en ce moment une exposition sur comment dirais-je ?
Sur la science. Sur en islam.
La science en islam, et plus particulièrement dans le monde arabe. Bon, les chiffres arabes sont tout de même des chiffres hindous. La plus grande invention de l'humanité qui est le zéro, c'est pas le fait des arabes, c'est le fait des hindous. Bon, et nous pourrions multiplier comme cela, il y a toute une réplique que nous donnerons, qu'on sera sûr, elle sera dans mon livre sur l'islam sans complaisance, réplique, par exemple, il y a des beautés ce qui a été fait à Cordoue, à Bagdad aussi, nous ne le nions évidemment pas, mais enfin il faut rendre aux Arabes ce qui est aux Arabes, puisqu'il s'agit là en général de l'islam arabe, mais cet islam arabe a hérité de la Perse, a hérité de l'Inde, ses plus grands médecins étaient d'ailleurs des juifs et des chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas tous été exterminés dans le djihad, ils avaient un statut de dhimmi et ils pouvaient continuer leurs activités.
Alors, quelques renseignements précis. L'émission sur les patrons chrétiens sur Radio Notre-Dame est à 9h ou à 9h30 ou à 10h le samedi et c'est rediffusé le mercredi à 17h ou 17h30 ou 15h, mais on peut vérifier les horaires au 01.
C'est ce qu'on appelle les renseignements précis.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit précis. Où on peut vérifier les horaires, voilà, ça c'est précis, au 01 56 44 44. Ils ont deux numéros, bravo, ben ça aussi c'est précis. Enfin, c'est le numéro de Radio Notre-Dame.
Bon, qui est voilà.
À trouver. Hein. Pouvez-vous redonner les adresses les adresses courriel, pardon, des trois endroits où il faut protester. Alors, la griffe, alors on vous fait une reproche. La griffe, ça s'écrit A-G-R-I-F. Je rappelle l'adresse, c'est
70 boulevard Saint-Germain.
Boulevard Saint-Germain, mais c'est le téléphone que vous n'avez pas donné. C'est le un petit temps mort.
C'est la même chose, parce qu'on a notre numéro à côté, pardonnez-moi, j'ai un trou, chers auditeurs, 01 40 51 74 07.
Vous le répétez, s'il vous plaît.
Ou bien, 01 40 51 voilà, le vrai, Cécile va le donner.
74 07.
Non, oui, le numéro de la griffe, le voilà.
Donc c'est 01 40 51 74 01.
01, pardon. Très bien. Et puis alors, on vous demande pour le métrobus, où il faut protester. Ben, vous ne savez pas, il faut chercher. Et puis, BVP, c'est pareil, vous vous débrouillez, on trouve facilement. Bon, BVP. Vous nous parlez tout le temps de la griffe, encore. Redonnez-nous, c'est l'orthographe, donc le téléphone, on l'a. Et
non,
puis...
non, pardonnez-moi, là, Cécile a donné un mauvais numéro de téléphone. Quand on téléphone, parce que j'ai un trou, c'est des choses qui arrivent, 01 40 51 74 07.
C'est bien 07.
Et on vous basculera sur le numéro de la griffe.
Voilà, c'est très bien. Et alors, l'exposition... attendez, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Ah oui, l'exposition à l'Institut du Monde Arabe est relayée prochainement sur Radio, sur Air Radio, je ne sais quoi. Les Arabes qui ont inventé la science et nous ont permis la Renaissance. Voilà, ça c'est une
prochaine. C'est très gentil, mais il faut les remercier.
Prochaine émission. Bon.
Et je voudrais répondre à une question très vite. Arrêtez d'attaquer l'islam. Vous parlez comme des américano-sionistes qui ont tout fait pour le rendre dangereux. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas américano-sioniste. Je précise même que, tout simplement, je défends la chrétienté, il est vrai, et que je pense que j'attends toujours que de la mosquée de Paris viennent les messages de solidarité avec les chrétiens que l'on massacre, parce que les messages de chrétiens à destination des musulmans ne manque pas. Je dois dire que personnellement, j'ai fait convoyer des médicaments pour des enfants dont je ne me souciais pas s'ils étaient chrétiens ou musulmans en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres endroits. Mais ce que je sais, par exemple aussi, c'est que tout de même pour le Pakistan, je ne vois pas le déferlement de l'aide islamique. Alors je n'attaque pas l'islam, je dis l'islam tel qu'il est et je dis qu'il y a un dialogue à avoir. C'est un dialogue qui doit justement éviter la confrontation qui se passe en Irak, parce que je ne suis pas de ceux qui étaient partisans de cette guerre-là. Mais c'est une dialectique trop facile que de traiter d'américano-sioniste ceux qui diraient sur l'islam des vérités élémentaires, parce qu'il n'y a pas de Coran alternatif, comme je l'ai souvent dit.
Je signale d'ailleurs à cet auditeur que s'il lit le Figaro du 24 octobre, donc lundi, on apprenait en page 2 que 3 chrétiens avaient été tués par des musulmans à Alexandrie lors des meutes provoquée par la diffusion d'un DVD qui avait été jugé insultant contre l'islam. Donc oui, l'islam tue aujourd'hui, et il faut savoir le dire.
Et d'autre part, être sioniste, je vous signale qu'être anti-sioniste, c'est un délit.
Oui, oui.
C'est un délit. C'est pas, on n'a pas le droit d'être anti-sioniste, donc ce monsieur nous fait des reproches qui sont infondés.
Alors, je me tourne vers Yves Daoudal maintenant, parce que vous nous avez apporté le numéro de National Hebdo qui sera demain dans les kiosques. Alors, dans votre éditorial, vous vous en prenez à Nicolas Sarkozy, qui non seulement répète qu'il veut modifier la loi de 1905, mais annonce même qu'il nomme une commission pour lui proposer des réformes. Alors, à vous lire, on a l'impression que vous défendez la loi de 1905. Est-ce que c'est vraiment là votre réplique à Nicolas Sarkozy ?
Non, la réplique, c'est évidemment pas de défendre la loi 1905. La question est très complexe. En fait, ce que j'ai voulu montrer dans mon éditorial, c'est surtout que Sarkozy réussit un tour de force quand même extraordinaire. Il est le premier homme, à ma connaissance, il est le premier homme politique en France à vouloir saper à la fois l'identité chrétienne de la France et les principes de la République laïque en même temps. Parce que jusqu'ici, c'était soit l'un, soit l'autre. Il y avait les laïcards qui combattaient l'identité chrétienne, notamment avec la loi de 1905, et il y avait les catholiques convaincus qui combattaient le principe laïciste de la République française. Mais Sarkozy, avec sa commission, lui, il réussit à faire les deux en même temps. C'est ça que je voulais surtout souligner d'abord. Puisque il fait les deux en même temps, puisque il veut changer la loi de 1905, c'est uniquement pour financer l'islam. Donc c'est contre l'identité française, contre l'identité chrétienne de la France. Et en modifiant la loi de 1905, il sape l'un des fondements le fondement laïque de la République. Donc il réussit à faire les deux en même temps. Ce qui est, et je remarquais ça parce que c'est une constante chez lui. C'est toute son action qui est comme ça. Toute son action, c'est lui qui a supprimé la soi-disant double peine. Des délinquants étrangers. Il se prononce sans arrêt pour une immigration légale massive. Et c'est l'idée, il reprend exactement ce qu'il y a dans le livre vert de la Commission européenne à ce sujet. Il est pour la discrimination positive et maintenant il est même pour le droit de vote aux étrangers. Donc,
et pour l'homoparentalité depuis hier. Il a annoncé qu'il allait se prononcer pour l'homoparentalité. Qu'il était plutôt favorable à l'homoparentalité.
Oui, tout, vraiment, il prend tout. Tout ce qui est contre la France, que ce soit laïque ou chrétien, peu importe, tout contre la France. Et l'islam est effectivement une bonne base aussi à la fois contre la laïcité française et contre la France chrétienne. Alors maintenant, la loi, la loi de 1905, c'est un grand débat, est-ce qu'il faut défendre la loi de 1905 ou pas. La loi de 1905 a été faite contre l'Église. C'était quand même extraordinaire aussi d'entendre Villepin et Chirac dire que la loi de 1905 est une loi qui a réconcilié les Français, une loi de paix civile, de paix religieuse, qui a enfin réconcilié la France. Alors qu'évidemment, la loi de 1905 était une loi de guerre civile, une loi destinée à détruire l'Église. Les promoteurs de la loi ne s'en cachaient absolument pas, ils le disaient ouvertement. Mais ce que je voudrais dire à propos de la loi de 1905, c'est savoir, qu'est-ce qu'il en reste de cette loi en fait ? Parce que tout le monde parle de la loi de 1905, mais qu'est-ce qui reste de cette loi ? Qu'est-ce qui reste de cette loi pour les catholiques ? Cette loi a été faite contre l'Église, il n'en reste strictement rien en ce qui concerne l'Église. Et ça, c'est jamais dit assez. C'est le reproche que je fais par exemple à Jean Sevilla dans son livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », parce qu'il reprend ce qu'on entend dire partout, c'est-à-dire que la loi de 1905 avait institué des associations cultuelles pour s'occuper des biens de l'Église, et que l'Église a d'abord refusé ces associations cultuelles, et puis finalement les a acceptées, c'est Pie XI qui avait accepté après des associations diocésaines. Ben, je suis désolé, mais ça n'a strictement rien à voir. Les associations diocésaines sont des associations qui sont sous la responsabilité de l'évêque, alors que les associations culturelles de la loi de 1905 sont sous la responsabilité du préfet. Et les associations culturelles ne parlent même pas du clergé. Donc ça n'a strictement rien à voir. Or, la loi de 1905, l'essentiel, les articles de la loi de 1905 sont consacrés uniquement à la création et au fonctionnement des associations cultuelles. Donc les trois quarts et même les 9/10 de la loi de 1905 ne concernent pas du tout l'Église catholique. Donc on n'a même pas à se poser la question de savoir s'il faut garder ou pas la loi de 1905. Ce qui reste simplement de la loi de 1905, ce sont les deux premiers articles. À savoir essentiellement que la République ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Alors effectivement, c'est un principe qui est inacceptable pour un catholique convaincu, pour un catholique qui sait ce que c'est que d'être catholique, puisque ce n'est pas une loi de laïcité. D'ailleurs, la laïcité ne figure pas dans le texte. Le fait que la République ne reconnaisse aucun culte, c'est une loi athée. C'est une loi qui fait que la République est officiellement athée. Et ça, évidemment, pour un catholique, c'est inacceptable. C'est là que se trouve la question. Je voudrais signaler quelque chose que j'ai appris par hasard, comme ça, je n'avais pas vu dans les journaux, je l'ai appris à la radio. C'est qu'il y a eu la messe de rentrée, la messe parlementaire de rentrée tout récemment, qui était dite par Monseigneur 23, l'archevêque de Paris. Et il n'y avait à cette messe qu'un seul socialiste, qu'un seul parlementaire socialiste, qui était Jean-Marie Bockel, qui est un peu un trublion des socialistes. C'est là qu'on voit que quand même la permanence du laïcisme de la gauche, au point qu'il n'y a aucun socialiste qui va à la messe de rentrée parlementaire de l'archevêque de Paris. Sur la laïcité, citer cette phrase quand même de Benoît XVI, faisant parler de Benoît XVI, pour montrer ce que c'est que la laïcité par rapport à la loi de 1905. Benoît XVI a dit tout récemment, un État sainement laïque devra logiquement reconnaître un espace dans sa législation à cette dimension fondamentale de l'esprit humain.
Alors, je voudrais dire aux auditeurs que le numéro de la griffe, bah, ça y est, ça revient dans mon petit cerveau, c'est le 01 40 46 96 31. Je répète, 01 40 46 96 31. Et quant à l'auditeur qui a envoyé un chèque d'adhésion de 30 € pour demander des documents, je m'assurerai dès demain, il peut m'appeler demain matin à la griffe, et ça partira immédiatement parce que j'y suis.
On peut aussi écrire à griffe@wanadoo.fr.
Et puis les horaires de l'émission donc des patrons chrétiens, c'est bien le samedi à 9h et rediffusé le mercredi à 17h. Voilà. Et puis quelques annonces. Les reliques de Sainte Thérèse sont à la Salpêtrière du 15 au 31 octobre. Et alors il y a de nombreuses animations. Vous pouvez les contacter à l'aumônerie de la Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital, Paris 13e, au 01 42 16 04 24.
L'animation des reliques.
Pardon ?
L'animation des reliques.
Oh, écoutez, bon. Alors, la procession des bannières, le 1er novembre, à partir de 14h30, départ de Saint-Louis de la Salpêtrière, où sont les reliques, vers Notre-Dame de Paris, arrivé 17h30 pour les vêpres. Et puis samedi prochain, 29 octobre, Jean Léo dédicacera « Docteur, vous me soignez mal » et « Diogène, le cynisme et la, glace, et la grâce » à la librairie France Livre 6, rue du Petit Pont. Ensuite, au Salon du patrimoine, au Carrousel du Louvre, du 3 au 6 novembre, le concert de Carillon exceptionnel, gratuit, aura lieu le dimanche 6 novembre à 10h30 au Beffroi, situé place du Louvre, à côté de la mairie du 1er et de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le prochain lancement de la souscription pour restaurer la Marie, qui a sonné la Saint-Barthélemy, et il y a une exposition à la mairie du 1er qui présente cette cloche et son histoire. Et puis le 11 novembre, comme chaque année, prière spéciale sur la tombe du colonel Jean-Bastien Thiry, pour tous ceux qui sacrifièrent leur vie à la défense de l'Algérie française. Donc cérémonie le vendredi 11 novembre à 15h au cimetière de Bourg-la-Reine, rue de la Bièvre.
Merci Victoria. Je rappelle dans les annonces la manifestation la semaine prochaine, le 3 novembre, jeudi 3 novembre, place de Rio de Janeiro, à proximité de l'ambassade d'Algérie, pour exiger de M. Bouteflika la repentance sur les crimes de son régime et de tout ce qui a été fait d'abominable contre la France, pour que nous puissions prendre des relations normales un jour avec ce pays.
Alors, est-ce que nous avons le temps, une dernière réplique peut-être sur la Pologne ou...
Il y a 2 minutes.
2 minutes, parce que nous avons sous les yeux une dépêche de l'AFP intitulée « Le conservateur Kaczynski, surprenant gagnant de la présidentielle en Pologne ». Alors, la dépêche commence ainsi. Le conservateur catholique Lech Kaczynski a été élu président de la Pologne en remportant largement, à la surprise générale, le second tour des élections. Bernard, vous avez été surpris, vous, de ce résultat ?
Je pense qu'Yves Daoudal parlerait excellemment de la Pologne, parlera dans la prochaine émission, parce qu'il a écrit un très bon livre sur le sujet. Moi, je voudrais dire combien je me réjouis, parce que quand on voit là aussi la haine contre la Pologne, c'est que c'est bon. Mais je voudrais évoquer une anecdote, ça sera l'objet peut-être de mon éditorial de Reconquête, ça s'appellera La Carpe, l'Aquarium. C'est une anecdote, lorsque je rencontrais Lech Wałęsa pour la deuxième fois, c'était alors qu'il était président de la République. Je l'avais rencontré avant, lors de la lutte sur les chantiers navals, et là, président de la République, il me déclara « Tu sais, il est bien difficile, quand on a de la soupe de poisson, de refaire de belles carpes dans l'aquarium. » Il voulait exprimer par là combien il était difficile de refaire une société sur les décombres du communisme. Il n'avait personne. Il me disait « Les communistes tiennent encore tout dans l'infrastructure du pays. Je ne sais pas trop sur qui m'appuyer. » Eh bien, depuis, les choses ont évolué, et je crois que Lech Wałęsa, quand même, peut se réjouir aujourd'hui, parce qu'une société naturelle a pu renaître en Pologne avec des partis politiques qui, eux, ne mollissent pas, et lorsque je demande l'application d'un certain nombre de points dans Reconquête, je dois dire que tous ces points-là, ce sont ceux qui ont été victorieux dans les élections polonaises dont nous nous réjouissons.
Merci Bernard, merci à tous d'avoir livré cette excellente émission, cette excellente deuxième partie aux auditeurs du mercredi soir. Je vous donne rendez-vous à vous tous le mois prochain.
Oui.
La date n'est pas encore fixée.
Et merci Serge de ton hospitalité. Nous fixerons la date très prochainement. Mais je dois dire que le numéro du Libre Journal, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer aux auditeurs, me réjouit beaucoup aujourd'hui. Et je les invite à le lire attentivement.
Bonne semaine. Que Dieu nous garde.